Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été. L'Hôtel des Pins a 100 ans cette année et vous propose une carte et des menus à la mesure de ses très grands bonheurs.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à l'Hôtel des Pins où nous nous installons pour tout l'été avec Radio Very Good Cap Ferret. Et l'endroit, il est beau, je vous le dis. Alors un centenaire, c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est une émission vraiment importante puisque j'ai l'honneur de recevoir aussi bien Julien Courbet que Marc Simoncini qui sont bien sûr partie prenante dans tout l'après des incendies que nous venons de vivre. Julien est sur le pont depuis le départ, on le voit un peu partout expliquer qu'il faut absolument être solidaire, mais Marc ne laisse pas ça part au chien, puisqu'on le voit là aussi, notamment faire la promo d'un très beau t-shirt, mais pas que. Et tout ça, on va en parler, bien sûr, pendant l'émission. Bon Brutal, je te salue.
C'est moi, je suis toujours là.
Nous ferons les parties habituelles, vous savez, nos météos, nos nouvelles et compagnie, en fin de deuxième heure. On va d'abord traiter du sujet principal exclusivement. Vers 11h45, nous serons aussi, messieurs, je vous l'apprends en direct, avec la Dépêche du Bassin, qui est, vous le savez, l'hebdomadaire local, qui va s'associer également à cette émission et faire tous les relais possibles, évidemment, sur son journal concernant les possibilités d'aider, de montrer la solidarité vis-à-vis donc de cet effroyable méga-feu qui a frappé la région et sinistrer des gens au propre et au figuré. Voilà, voilà. Donc je vous propose, cher monsieur, de démarrer pas plus tard que maintenant.
Bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, indice 50 de protection d'ennui.
Alors si vous le voulez bien, messieurs, soyons d'abord Julien Courbet factuel. C'est un super été.
C'est un été particulier, voilà. C'est un été particulier qu'on n'oubliera pas pour de mauvaises raisons, mais qu'on n'oubliera pas non plus pour de bonnes raisons, puisque c'est un été de solidarité, mais c'est vrai que c'est pas, il ne ressemble pas aux autres.
C'est pas l'été où on se repose le plus, Marc Simoncini.
C'était le plan, mais le plan s'est pas déroulé exactement comme ça.
C'est ça. Alors je crois qu'il y a un vieux proverbe qui dit que l'homme fait des plans, mais que Dieu rit.
Ou que la vie, c'est ce qui se passe de l'inverse de ce qu'on a prévu.
Absolument. Bon. Alors,
Est-ce qu'il y aura d'autres citations comme ça? Parce que là, je suis déjà complètement largué. Ça ne fait que 25 secondes que ça a démarré. Donc, dans ces cas-là, je vous laisse tous les deux. Vous faites une petite demi-heure philosophique.
D'accord.
Platon disait, Nietzsche disait. Moi, je bois un café et je reviens après.
J'en ai trois en latin, moi. Une fois que je les ai sortis.
Qu'on apprend en général avant le bac philo.
On les place. On les place et après, on se casse.
Kawe canem, asinum sasinum fricat.
Allez à Jacques Taïs, salut tout le monde.
In dino veritas.
Ah oui. Astérix. Très bien. Alors, on va, je le disais, partir du factuel. Donc, on part de ce concert qui est la première des nouvelles qui a été distribuée au grand public. Il a lieu, ce concert, le 27 août 2026, donc à 21h à l'Arkea Arena de Floirac. Ce concert sera en direct sur M6. Il sera retransmis sur RTL et sera présenté par Julien Courbet, Éric Jean-Jean et Élodie Gossuin. Alors, il est complet, mais ce n'est pas parce qu'il est complet, Julien, que pour autant, il n'est pas le centre de retransmission et donc la possibilité pour des gens qui vont regarder ou écouter à la radio ou à la télévision, la possibilité là aussi d'être solidaire.
L'objectif, bien sûr, c'est de faire un concert, mais l'objectif, c'est de rapporter des sous. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, le mien, c'est ma seule obsession, c'est que ça rapporte des sous. Donc effectivement, la billetterie, ça y est, on est au complet, donc ça c'est super, le job est fait de ce côté-là. Maintenant, la deuxième partie du job, c'est de motiver les auditeurs d'RTL et les téléspectateurs d'M6 durant les 2h30 de concert à envoyer des sous, à s'inscrire sur la Fondation de France qui est notre partenaire et aller donner un petit peu. Donc on espère que l'addition des deux va faire une somme conséquente.
Très bien. Est-ce qu'également, pendant ce concert-là, on peut donner aujourd'hui, à ce jour, parce que ça évolue tout le temps, et tant mieux, 17 pour l'instant personnalités, je les cite et vous me dites si je me trompe, Axel Bauer, Benabar, Kali, Gaëtan Roussel, Gauvin, Serse, Gims, Elena, Jeanne Masse, Julien Clerc, M, Natacha Saint-Pierre, Noé Presse-Zaou, Pascal Obispo, Renault Superbus, Icar Zazie, 120 pompiers, une cinquantaine d'enfants.
Oui, non mais là je pense qu'on est complet parce que on s'est fixé 3h du matin comme fin de concert. Déjà ça, il va falloir faire en fait.
C'est incroyable. Il va falloir négocier avec M6.
Parce qu'en plus c'est en direct. Je suppose que, enfin moi je suis pas chanteur, quand Zazie s'arrête, il y a une petite minute, 32 minutes pour installer Pascal Obispo. Oui. Puis c'est pas la même installation pour Superbus. Donc il va y avoir des petits plateaux. Donc je pense qu'on est complet de chez complet.
Tu vas meubler.
On va essayer de donner la parole justement sur scène, sur ces petits interstices, à des pompiers qui vont venir, à des sinistrés. pour faire de l'appel aux dons.
Alors justement, on estime la durée du spectacle à combien de temps à peu près?
Sur le papier, c'était 2 heures et moi je dirais...
Non, c'est 2h30.
Je pense qu'on est à 2h40-45.
On va finir à 3h, mais...
Non, mais on ne peut pas finir aussi tard, mais à mon avis, c'est jusqu'à 23h30.
D'accord. Alors, on viendra tout à l'heure à la genèse et à comment tout cela s'est organisé et avec qui. Mais on continue pour l'instant sur les façons de pouvoir être généreux. Donc on a compris, le concert est complet, mais ce n'est pas le souci. Bien entendu, les t-shirts, ce n'est pas le souci qu'ils soient complets, puisque je le répète, à travers la retransmission, qu'elle soit radio ou télévision. Vous aurez donc la Fondation de France et un standard téléphonique, je suppose, qui permettra en direct de donner, un peu comme pour un téléthon, Julien.
Alors, ce n'est pas un standard téléphonique, c'est vous allez sur Internet où vous aurez un QR code. Ça sera encore plus simple. Vous regardez votre téléviseur, QR code, et vous arrivez directement sur la page de la Fondation. Donc, la Fondation, elle chapeaute plein de projets, mais il y aura une page uniquement destinée aux sinistrés. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas aider les autres, mais nous, ce qu'on a dit à la Fondation, c'est qu'on ne voudrait pas que cette recette elles partent pour vous, toutes vos autres actions. Nous, on est là pour les sinistrés, donc il y aura une page dédiée.
Marc, j'ai cru lire quelque part que non seulement cela concernait les incendies méga-feux de Sud-Ouest, mais aussi les auditeurs auront la possibilité de donner de l'argent, d'aiguiller de l'argent vers le Sud-Est.
Bah, toutes les victimes de ces terribles incendies de cet été, donc il y a à la fois évidemment la Gironde, qui est la première démotivation qui a vu le jour, mais il y a aussi le Var, il y a eu d'autres régions, etc. Puis il y a les pompiers, il y a... Donc, tous ces gens qui ont souffert de ces incendies cet été.
Voilà, donc ça c'est quand même entre guillemets bien foutu, parce que c'est pas quelque part un microscope local, c'est vraiment pour aider tout le monde.
Pour être honnête, au départ c'était un microscope local, au départ c'était aider les gens du Sud-Ouest et les artistes, et je leur rends hommage, on dit attendez, vous êtes sur M6, on est sur M6, on va venir chanter sur toute la France, donc il faut que ça s'adresse à toute la France. Et du coup la décision a été prise tout de suite de dire celui qui veut donner dans le Sud-Est, il donne dans le Sud-Est, celui qui veut donner dans le Sud-Ouest, il donne dans le Sud-Ouest.
Parce qu'au départ on n'avait même pas imaginez que ce soit diffusé sur une chaîne. On rêvait que ça le soit, mais au départ, c'était un concert local à Bordeaux. La recette, on l'a donnée à la Gironde. Figé. Quand c'est devenu national, on a changé évidemment de notre fusil d'épaule.
Mais on parle de microcosme ou de microscope
et de braquet. Et effectivement, donc ça, je le répète, les coulisses vont être extrêmement importantes. Alors, on vient de parler évidemment du concert lui-même qui a rapporté une billetterie. Je crois qu'à ce sujet-là, tu avais une petite réflexion à faire à Julien qui t'a beaucoup amusé.
Ah oui, c'était énorme. J'ai vu passer un reel de toi ou je sais pas, un truc sur les réseaux où tu disais qu'il y avait beaucoup de gens qui te demandaient des invitations.
Bien sûr.
Des invitations.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans caritatif?
Tu penses qu'on peut avoir deux places, mais surtout, on donnera un petit quelque chose à la Fondation. J'ai dit oui.
C'est fou.
Non seulement tu vas donner un petit quelque chose à la Fondation, mais tu vas payer tes places. Donc...
Et puis tu vas te tourner, je vais t'en mettre.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Par contre, je veux souligner aussi, il me semble que toi, tu as acheté des places avec tes fonds et tu les as redistribués.
J'en ai acheté, que j'ai donné. Alors il y en a beaucoup, j'ai beaucoup donné au Porche parce que c'est là-bas qu'il y a eu le plus de demandes. Moi je me suis un petit peu renseigné qui veut des places. Alors je voulais que ça soit que les sinistrés, etc. Donc j'ai beaucoup de pompiers au Porche qui vont venir, beaucoup de sinistrés du Porche. J'en ai donné une bonne trentaine à tous ceux qui ont fait les pare-feux, qui sont restés faire à manger, le food truck ici. Et voilà, j'ai distribué. Et alors après, je ne vais pas vous mentir, j'en ai une dizaine pour effectivement mon cercle proche parce que... J'aimerais bien que mon fils, ma fille voient ça et voient ce que c'est que de la solidarité, mais elles ont tout été payées. Enfin, j'aimerais pas apprendre qu'il y en a eu des gratuites.
Non, c'est extraordinaire.
Ça plairait pas, ça.
Des mecs qui demandent des invites pour un concert caritatif, moi je m'en remettrai pas. Ça m'a fait mon année, moi.
Même question pour Marc. Alors lui, qui bien sûr, dans cette opération-là, on le verra tout à l'heure, mais à la puissance d'un réseau, à la puissance évidemment, pourquoi pas aussi des camarades chefs d'entreprise. Et donc, est-ce que là aussi, justement, avec les entrepreneurs, il y a un débouché? C'est-à-dire, est-ce que vous avez participé à cette volonté d'aller les solliciter pour qu'eux aussi apportent?
Alors attention, moi j'ai agi à un tout petit niveau par rapport à Julien, par rapport à tous ceux qui ont travaillé sur le projet artistique. Moi, c'était pas du tout mon... Moi, j'ai essayé de débloquer quand on m'a demandé de débloquer. Donc, on a cherché des places d'hôtel.
Il ment. Je vous dirai après pourquoi il ment.
Il fallait loger tous ces gens. Donc, j'ai appelé des copains, et en l'occurrence, un copain qui dirige le groupe Accor, qui nous a aiguillé vers les bonnes personnes pour avoir des places d'hôtel gratuites ou pas chères. Ensuite, il a fallu qu'on trouve un site pour vendre des t-shirts, alors qu'il va y avoir des appels à la télé pour acheter le t-shirt. Les serveurs vont sauter. On n'avait pas le temps de monter un site, donc j'ai appelé un copain qui dirige Carrefour.
Après, il fallait construire une salle pour le spectacle.
Voilà.
À mon petit niveau, j'ai réussi en une semaine à faire construire une place de 10 000 places.
C'était que quelques coups de fil. J'ai Là où j'ai mis un peu les mains dans le cambouis.
Il en a fait autant que les autres, je vous rassure tout de suite. Mais ce qui était génial dans cette organisation, et c'est ce qui fait
c'est qu'il n'y en avait pas.
Un, il n'y en avait pas, mais c'est le petit miracle, c'est d'avoir fait ça en aussi peu de temps, c'est que chacun était dans son domaine de compétence. Il a réussi à faire sortir, je ne sais pas par quel miracle, des t-shirts en l'espace de 10 jours. Combien il y en a ?
10 jours, il en a fait 5 000, pardon.
5 000 t-shirts. Alors là, il a contacté Carrefour. On a eu les... Si on n'avait pas les chambres d'hôtel, il n'y avait pas de concert.
J'entends.
Il en a trouvé 100 en 8. Voilà, mais parce qu'il a joué. Et puis Pascal Obispo à son niveau, c'est la musique. Et puis moi, un autre.
On va aller voir ça tout à l'heure. On continue sur la manière de pouvoir justement participer, aider. Et bien sûr, on en arrive à ces fameux t-shirts. D'ailleurs, pour Instagram, on les enfilera tout à l'heure pour bien entendu qu'ils paraissent au public. Alors, le t-shirt SOS Solidarité Incendie, Marc, on a vu des réels et autres publications réseaux sociaux là-dessus. Il est vendu 25 €, c'est ça, et distribué par Carrefour France.
Alors, il fallait trouver un site internet pour que les gens l'achètent. Évidemment, il sera en vente le 27 au soir. Il y aura des boutiques avec des moyens de paiement pour pouvoir l'acheter sur place, mais il faut que les gens puissent l'acheter dans toute la France. Donc, il fallait un site internet pour le distribuer. Le site internet, il peut exploser parce que si Julien fait un appel en live sur M6 en disant achetez le t-shirt, on peut peut-être avoir 5 000 connexions. Donc on n'avait pas le temps de monter un site internet comme ça en 8 jours. Donc on a cherché un site internet qui existait, qui était prêt à travailler avec nous. Et j'ai trouvé Carrefour qui, dans sa machine de guerre et dans son énorme organisation, a trouvé un petit moment en plein milieu des vacances pour nous mettre le t-shirt en vente, nous facturer à prix coûtant le picking et l'expédition. Donc je répète, Carrefour ne prend pas 1 euro sur cette opération. Tout au contraire, ils ont travaillé pour rien, bénévolement, et on sera prêt à distribuer le t-shirt et à le vendre dans toute la France. Voilà, donc le t-shirt va être vendu et peut-être réédité. Si les 5 000 premiers partent très vite, oui, on va essayer bien entendu de le rééditer et d'en faire le maximum et de le vendre 25 € pour avoir suffisamment de
Julien,
marge.
J'ai des copains moi qui ont une autre enseigne et qui m'ont dit nous on va en acheter, on va les vendre et puis tant pis si c'est, on s'en moque que ça soit Carrefour, ouais, tout ça c'est super. Donc s'il y a des chefs d'entreprise qui regardent et qui disent tiens je peux lâcher un petit ticket et j'en prends 100 et puis je vais les donner à mon personnel, je vais les donner à l'équipe de foot et
exactement,
compagnie, c'est ce qu'on attend plus qu'un par un, ça serait encore mieux.
Exactement. Bien entendu.
Exactement.
Ok, alors donc est-ce que Julien, je vais être un petit peu, on est pas mal Madame Irma, mais est-ce que tu as imaginé une forme de projection de résultats, c'est-à-dire qu'entre les coups de fil, le concert, les t-shirts, vous avez envie de ramasser quoi, 200 000, une brique, 10 briques, sans limite, j'ai bien compris.
Je pense qu'on, j'espère aller alors, un petit peu plus que
200 000, ce serait un échec, vraiment.
Non, mais la billetterie, j'ai pas calculé parce que je suis pas un homme de
10 000
chiffres,
places à 30 balles et quelques.
À la moyenne, on est déjà combien?
Bah, 300.
Voilà, bon, y a des frais. Hein, après, il y a quand même des choses côté payantes et j'espère au moins qu'on va atteindre au moins ça après en SMS, etc.
Avec tous les dons, je sais pas, il faut au moins qu'on atteigne 1 million d'euros. Sinon,
ça serait un peu.
Ça serait dommage.
Et alors, une fois que la Fondation de France, elle a cet argent, elle en fait quoi? Alors, vous avez bien sûr parlé des sinistrés tout à l'heure, mais avec 1 million, c'est à la fois énorme, mais en même temps, on reconstruit pas 180 baraques.
Alors, ils m'ont envoyé justement, donc il y a 15 jours prévu à Bora Bora pour toute l'équipe, donc avec location de bateau. Qu'est-ce qu'ils en font? Ben après, ils ont un petit coup de fonctionnement parce que voilà, ils font marcher, donc ils prennent une toute petite part, mais qui est minime, et
on
ensuite ils les mettent dans une caisse. Et vous arrivez sur Fondation de France, vous dites je veux que ça aille au Sud-Ouest, ça part au Sud-Ouest. Mais je me suis engagé parce que vous savez, ce genre de promesse, et attention, je ne remets absolument pas, c'est nous qui les avons choisis, la Fondation de France, mais je me méfie toujours. Donc j'ai dit au patron que j'ai eu au téléphone, il va falloir que de toute façon, tous les 15 jours, il y ait quelqu'un de chez vous qui vienne en direct sur RTL, au téléphone, et me donne des chiffres. Et dire, voilà, on a donné 35 000 là, 26 000 là, 27 000 là. Et si c'est pas vrai, on le saura tout de suite. Et malheureusement, on le fera savoir. Donc c'est un peu une forme de pression qu'on met à ces gens-là pour qu'on soit sûr que l'argent aille au destinataire.
C'est pas comme si Julien Courbet, Marc, il n'avait pas l'habitude de surveiller un petit peu les
arnaques.
Déjà, une. Et deux, on peut quand même partir du principe que la Fondation de France, qui est quand même la référence dans cet univers, soit des gens sérieux et fassent le job tel qu'ils l'ont.
Oui, c'est pas l'arc.
Allez, une petite pause.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
C'est que ça la pause, les amis. Donc, si vous vouliez envoyer un mail, c'est pas la peine. Alors, je continue sur les méthodologies de pouvoir participer à cette belle action. On a vu, donc, le concert, c'est fait. Mais pendant le concert, on passe des appels auprès de la Fondation de France, des mails, des SMS, que vous voulez, pour proposer de donner, que ce soit bon, par le canal de RTL ou M6. Donc, ça, c'était ta part du boulot. On est bien d'accord, Julien?
Oui. Ma part du boulot, c'était de les médias. Voilà, c'était les médias. Donc, j'ai appelé. Et je dois le dire vraiment, c'est pas parce que c'est ma maison, mais alors quand j'ai appelé RTL en leur disant qu'il faudrait retransmettre en direct ce concert. Ils ont dit OK. M6, ça s'est fait en deux jours ça a été réglé. Que d'autres, on ne va pas faire de polémique, nous ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ouais. D'autres ont dit qu'il faudra nous donner un peu d'argent pour venir, etc. M6, ça a été réglé. Donc, c'est juste fantastique. Vous vous rendez compte, un concert qui passe sur RTL, M6 en direct, c'est quand même pas rien. Quoi.
En même temps, on peut considérer désormais que tes contrats radiophoniques et télévisés sont sécurisés. S'ils acceptent, c'est qu'ils t'aiment toujours bien.
Oui, bah peut-être. On va voir. Peut-être qu'ils vont voir ce que je suis capable de ramener comme recette en disant c'est très décevant, on ne te re-signe pas.
Ah
on
oui,
sait pas.
C'est à double tranchant. Marc Simoncini, on a évoqué les entreprises tout à l'heure. Justement, comment on peut mobiliser un réseau d'entreprises? Julien l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je suppose que vous avez passé là aussi quelques coups de fil.
Écoute, en fait, on connaît toujours quelqu'un qui connaît la bonne personne. Donc, c'est la théorie des six niveaux. Bah, nous, en chef d'entreprise, quand on est un peu notoire, bah, on est en deux niveaux. Moi, je peux contacter n'importe qui en deux coups de fil. Voilà. Bon, je n'ai pas du tout contacté grand monde. J'ai contacté les personnes dont on avait vraiment besoin. Et c'est peut-être pas terminé. On va peut-être encore se rendre compte que si on décide de faire 100 000 t-shirts, bah, je vais appeler tous mes copains. Alors, tu m'en achètes 5 000, 2 000, 3 000. Parce qu'il y a des grands groupes hein, dans les carnets d'adresses. Donc, ça, c'est que du réseau, en fait. Quand c'est pour une bonne cause, et je le fais jamais, c'est pas que je fais jamais de bonne cause, mais je demande rarement un service à un grand patron. Enfin, je le fais pas, quoi. Là, je le fais pour une vraie cause et on est très, très bien reçus. J'ai eu Alexandre Bompard en plein milieu de ses vacances. Il dirige un groupe qui fait 80 milliards de chiffre d'affaires.
Il m'a répondu
dans l'heure. Il a envoyé à son directeur des opérations le truc dans la demi-heure. Et le soir même, on était déjà au boulot.
Okay.
Parce que la cause est belle, parce que le drame est réel, parce que les gens ont été touchés, parce qu'on a perdu une partie de notre patrimoine français. Hein, et pas que dans le coin. Les forêts, elles appartiennent à tous les Français. Et puis le drame humain aux Porges.
Bien entendu. Voilà. On va y revenir. Oui, Julien.
Juste au-delà de l'argent, qui est le nerf de la guerre, moi je pense que ce qui est important dans cette soirée, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que le barnum qu'on met en place, on espère, mais vraiment, sincèrement, qu'en haut lieu, à un moment donné, ils vont se dire bon, maintenant ça suffit, il ne peut plus y avoir d'incendie comme ça. Donc il faut vraiment qu'on fasse. Parce que les gens, ça a l'air de les énerver, ça les motive, ils sont là quand on parle de cette cause. Donc on espère toucher aussi le politique, sans faire de politique, parce qu'on est apolitique, mais pour que maintenant il se passe vraiment quelque chose, parce que ça ne peut plus arriver là, ce qui est arrivé là.
Alors la dernière question du programme, c'était finalement la plus belle réussite de SOS Solidarité Incendie, ce serait peut-être qu'il n'y ait jamais de deuxième édition.
Exactement.
Alors, qu'il n'y ait pas de deuxième édition pour les sinistrés, entièrement d'accord, mais qu'il y ait une deuxième édition, puisque ce que je crois, c'est un monsieur Duporche qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, vous savez, quand tous les journalistes vont partir, quand ça sera terminé le buzz sur BFM, et compagnie, vont se retrouver ces gens-là seuls devant des cendres.
Évidemment.
Et là, il y en a un qui va prendre un pistolet et tirer. Parce qu'il va dire, je n'y arriverai pas. Donc, si on ne leur donne pas un point d'ancrage en leur disant, dans un an, il faut que tout soit prêt, parce que... Je vous dis n'importe quoi. Pascal Obispo va venir chanter au Porge.
Oui.
Zazie va aller à Lacanau pour faire un festival des quatre villes du sud-ouest et du sud-est. Ben là, ça leur donne un objectif.
Juste une remarque. Il va falloir reconstruire. Je rebondis sur ce que tu dis. Là, on va rentrer dans un enfer administratif.
Oui.
De permis de construire, de permis de démolition, d'expertise. On va rentrer dans un maquis qui va rendre les gens dingues. Je rappelle quand même qu'on a un président qui a décidé de reconstruire une cathédrale en...
5 ans ?
Oui. 5 ans. Et il l'a fait. Il a mis un militaire, il s'est assis sur toutes les règles et sur tous les permis et il a reconstruit. Je pense qu'il faut que les gens, les politiques prennent conscience que quand on reconstruit quelque chose qui a été un drame, on doit s'affranchir des règles. On l'a fait avec les pare-feux. Les pare-feux, ils ont été faits comme ça, à l'arrache, parce qu'il fallait les faire. Il va falloir faire la même chose pour ces gens-là. Parce que s'ils rentrent dans un maquis administratif de 5 ans pour reconstruire une baraque, ils vont devenir dingues. Et ça, il faudra être vigilant.
Une idée qui m'a été donnée, moi, et que j'ai relayée, c'est le loto national. Enfin, c'est juste fantastique. On l'a fait pour Notre-Dame, et ça a rapporté, mais un fric fou.
Ouais.
Là, c'est une cause nationale, c'est notre patrimoine, c'est la forêt de France. Les pompiers n'ont plus d'argent, les pompiers ont besoin de matériel, et il faut de l'argent pour faire les pare-feux. Une loterie nationale pour les incendies générerait pas loin du milliard, peut-être 500 millions, c'est autant que. Et là, en plus, les pompiers, on leur achèterait des beaux camions, et on ferait des pare-feux.
Et des beaux avions.
Très bien. Pourvu simplement que l'argent ne parte pas
très,
ailleurs.
Ce qui est bizarre dans cette émission, c'est qu'il y a un monsieur qui nous sert un café qui ressemble à quelqu'un qui a joué des finales de Coupe d'Europe.
Ouais.
Mais c'est fou. D'où viennent ces sosies? Il y a une école? Il y a un concours de sosies
C'est un sosie de Strasbourg.
Tu sais quoi? On a même le sosie de Julien Courbet et de Marc Simoncini aujourd'hui.
C'est dingue ça. Il doit y avoir une soirée dans une boîte, une soirée sosie. Il ressemble à ce monsieur Rohr de l'époque.
Ouais. Garnotte, non? Il s'appelait.
Exactement. Exactement. Ouais.
Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite page de pub. Le temps garde notre s'assoit et puis comme ça, on pourra discuter avec lui après.
Exact.
Publicité. Le café de la plage à Andernos. Pour déjeuner, dîner ou simplement partager un verre. Découvrez la nouvelle ambiance cosy, une cuisine aux saveurs du monde, les DJ tapas de 18h à 20h et les grands événements sportifs sur des écrans géants. Venez entendre battre le cœur du bassin, le café de la plage. Andernos a trouvé son nouveau rendez-vous.
Du déjeuner jusqu'au dîner, adoptez la terrasse de l'hôtel Côté Sable. Délicieux tapas, assiettes fraîcheurs, bar à cocktail, ambiance musicale et vue imprenable sur le bassin. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
Bain de soleil et l'hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Et voilà, toujours en direct ici, Garnot nous a rejoint en effet, le célèbre footballeur, mais pas que entraîneur, mais aussi heureux propriétaire de cet hôtel des Pins où nous nous trouvons aujourd'hui. Et je vous le rappelle, cet hôtel a 100 ans, donc c'est pas rien. Et puis bon, Julien, on était en train de dire pendant la courte pause qu'effectivement, il y allait avoir des initiatives un peu parallèles. Par exemple, je sais qu'ici, il y a un établissement qui va faire écran géant, je crois que c'est Cap Golf. Ils vont proposer en même temps que vous, j'ai envie de dire, la retransmission.
Et il y a, je crois, du côté de Lanton, ils s'organisent, c'est sur le bassin également pour le faire. Et au Porges, apparemment, ils vont être 600, c'est-à-dire les sinistrés se réunissent devant un écran géant et ça ne sera pas du tout pathos, au contraire. Enfin, je veux dire, il y a des buvettes, il y a un DJ avant, il y a des food trucks, parce qu'au contraire, ces gens-là, ils ont besoin de lâcher, ouvrir le robinet et de voir que tous ces concerts, qu'il y a Zazie, Obispo, qu'il y a Gims qui viennent chanter pour eux, mais ça va être... Donc on va essayer de faire un petit duplex à un moment donné pour que la France entière voit ces gens-là sinistrés qui disent merci d'être avec nous. C'est super. Moi, ça me donne la chair de poule. Vraiment.
Très bien. Alors, c'est pas du pathos, mais à propos de ressenti, de sentiments, tous les deux, vous êtes partis dans l'action, j'ai envie de dire, le plus vite possible pour venir en solution à ces événements. Mais pendant les événements, vous étiez comment? Flippé, paniqué, triste, révolté? Quels sont les sentiments qui vous ont habité, Marc?
C'était d'abord le stress, moi, l'angoisse, la peur. Hein. À un moment donné, on a eu peur. Et puis après, l'effroi de voir que ça dévorait tout, que ça ne s'arrêtait pas, que c'était inarrêtable. Franchement, c'était dur. Enfin, moi, c'est rien par rapport aux gens qui ont perdu leur maison. Mais,
oui, oui.
Mais c'était vraiment, vraiment dur.
Vous étiez où ?
Moi, j'étais ici. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de partir avec mon fils fêter ses 25 ans. Et tout le soir où on a été évacué, j'étais coincé avec lui. Et je ne pouvais pas rentrer en France, je n'avais pas d'avion qui rentrait.
Vous n'étiez pas en France, d'accord.
Non, j'étais
donc
en Espagne.
Donc il y avait une part de
ma
fantasme.
Famille était là, ouais. Et moi j'étais juste avec mon fils en Espagne.
Et toi Julien?
Moi je suis parti, j'ai obéi au SMS qui nous a dit il faut maintenant partir. J'ai mis tout le monde dans la voiture. Avec le recul, je regrette un peu de ne pas être resté. Mais bon, comme le SMS disait, vous allez gêner les pompiers, ne restez pas, etc. J'ai dit, soyons citoyens. Mais je regrette de ne pas être resté parce que... Au-delà de tout, ça a été, je pense, pour ceux qui sont restés, une aventure humaine extraordinaire. Quand on voit toutes les saloperies que l'on voit sur les chaînes info, on se dit que là, le meilleur de l'homme, c'est... plus c'est allé au grand jour, donc je regrette de ne pas être resté. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai été en face à Arcachon. J'ai des amis qui nous ont dit il y a une chambre, vous allez vous mettre là. Et on pensait y aller deux jours, donc je suis parti avec deux sous-vêtements et on y restait 11.
Et Garnot, qui est
moi,
avec
je
nous.
Suis resté, j'ai évacué la famille et je suis resté. J'ai dit peut-être qu'on pourra se rendre utile avec l'hôtel des Pins, faire à manger aux bénévoles, à ceux qui en ont besoin, qui travaillent. Il y en avait beaucoup, c'est ce qu'on a fait. Et puis entre Claoué et ici, j'ai pris le vélo pour ne pas gêner les pompiers ou d'autres personnes qui devaient circuler. Mais il n'y avait personne sur la
route.
Mais je circulais seulement en vélo. Et c'était, comme tu dis, une aventure humaine extraordinaire. Fin juillet, les rues vides comme ça, au Cap Ferret, on n'a jamais vu ça. Et on ne le revivra jamais, j'espère. Ouais,
mais il a raison, Julien. C'est dommage. On peut respecter ce qui s'est passé pendant les événements, mais on regrette énormément que ce ne soit pas comme ça au quotidien. C'est-à-dire que quand le meilleur de l'homme ressurgit, c'est quand il y a des situations de crise. Mais pourquoi
ce
est-ce
n'est
qu'on...
que quand il y a des situations
c'est
de crise.
Pourquoi on ne fait pas ça quand la vie est normale?
Moi, j'avais une émission à l'époque qui s'appelait Tous Ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelais avec cet animateur qui d'ailleurs a perdu une maison dans un incendie, le pauvre.
Exact.
Et c'était des gens qui avaient... plus rien, qui vivaient dans leur voiture parce qu'ils s'étaient fait avoir par celui qui avait construit la maison, donc ils n'avaient plus un centime. Et en 3 semaines, on construisait une maison de A à Z.
C'est vrai.
Il y avait 200 bénévoles qui venaient, qui disaient ces pauvres gens, on ne peut pas les laisser comme ça. Un couvreur, un carreleur, ils travaillaient la nuit, ils allaient bosser. Et à côté de ça, quand il n'y a pas une catastrophe comme ça, bah, tu vois toutes les mesquineries ouais, et tout qu'on peut se faire. Et c'est
exactement. Marc
Non, mais on a vécu ça, je trouve, après la Covid, où les gens ont dit « Oh là là, je ne vois plus du tout les choses pareilles, le monde est différent, j'ai compris, j'ai enfin compris, etc. On va faire attention à la planète, il faut s'aimer, l'humain, c'est important. » Et puis, trois ans plus tard...
Tout part en quenouille.
Tout part à nouveau en quenouille. Voilà, c'est comme ça.
Alors après, il faut quand même dire que ça peut aussi, parfois, c'est plus rare, tant mieux, mais générer les sentiments inverses, puisqu'il y a quand même un ou deux types qui se sont fait attraper avec le coffre oui. plein de cames volées ouais. dans les baraques, même si les forces de l'ordre faisaient très attention.
Tu auras toujours un pyromane, tu auras toujours un voleur, etc., mais ça reste quand même à la marge. Mais quand on arrive à organiser la solidarité, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut y réfléchir à ça, se dire qui veut être solidaire si jamais il y a une catastrophe, mettez-vous sur une liste, qu'on organise ça au moment où ça arrive. Moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça. Et quand ça s'est un peu organisé à Claouet, ça a été fantastique.
C'est vrai.
Fantastique.
Après, je reviens sur les incendies. Les incendies, ça touche toute l'Europe. Maintenant, ça touche la Bretagne, ça va toucher la Belgique, toute l'Europe. On ne peut pas imaginer que l'Europe, qui est quand même la deuxième ou troisième puissance économique mondiale, crée pas un pool d'avions de secours qui soit stocké à peu près au milieu de l'Europe et qui envoie à la demande les avions dans chacun des pays en fonction des incendies.
Et que les avions puissent aussi voler la nuit parce qu'ils se sont arrêtés le soir alors que chez nous, il n'y a pas de relief.
Oui. Mais vous savez que par exemple, si la France construit un Canadair, l'équivalent d'un Canadair, il y a des boîtes qui sont en train d'en préparer, d'en faire, il doit être certifié au niveau européen, ce qui prend des années et des années. Alors que la France pourrait très bien faire un avion qui vole en France. En disant à l'Europe, allez vous faire foutre avec vos normes, moi je le fais voler chez moi et c'est mes normes qui s'appliquent. Non, il doit être certifié au niveau européen. C'est pour ça que c'est si long. Et il va falloir se réveiller.
L'autre aspect, moi, qui m'a fait bondir, c'est quand j'apprends qu'une partie de la forêt appartient à l'Office national des forêts. Donc le maire ne peut rien y faire. Et en face, de l'autre côté de la rue, ça appartient vraiment à la mairie. Donc là, il peut faire quelque chose. Mais là, il faut une autorisation du préfet. Mais comment ? Il faut redonner le pouvoir à ceux qui habitent ici. Le maire, il est le patron de toutes les forêts. Et c'est lui qui décide comment on fait. Mais si on est 5 être propriétaire des forêts, je ne peux pas aller chez toi, tu ne peux pas aller chez moi, mais l'arbre, il ne se pose pas la question quand il va flamber de l'un à l'autre. Enfin, c'est ridicule, il faut remettre tout ça à plat, quoi.
Mais c'est ce qu'on vit au quotidien quand on est chef d'entreprise.
Bien sûr.
Le CERFA 22-16-17, le CERFA 22-9-14, et qui se marche sur les pieds, et on passe notre vie à naviguer dans un labyrinthe administratif. Quand il y a le feu, il faut passer tout droit. Il ne faut plus remplir les formulaires.
Je crois que c'est ce qu'ils ont fait à un moment.
Il y aura une jurisprudence avec tous ces pare-feux qui ont été faits. Je crois que le prochain feu, les gens ne réfléchiront pas. Ils vont faire les pare-feux eux-mêmes. Ils diront, allons au tribunal, on verra bien.
Exactement. Une jurisprudence locale qui pourra peut-être faire tache d'huile. Alors, on va peut-être venir maintenant, s'il te plaît mon ami, à la genèse du projet.
Bain de soleil et l'hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Alors Julien, les incendies se déroulent. Toi, tu regardes ça, bien sûr, avec une grande peine, une grande angoisse, peut-être une colère. Et donc, à partir de quand germe l'idée de dire, bon, il faut faire quelque chose ?
Alors, il y a un homme, il faut remettre l'homme au milieu du débat, c'est Pascal Obispo, qui me donne un coup de fil. On est en fait une bande, voilà, on se voit de temps en temps. Où on habite ici, je veux dire, on n'est pas des touristes qui venons l'été. Moi, je suis obligé d'aller à Paris, Marc aussi, parce que le studio de télé, il est là-bas. Sinon, si je pouvais éviter d'y aller, mais je vous jure sur tout ce que j'ai que j'y mettrai jamais les pieds.
Jamais,
mais
jamais.
Le studio de télé, il est là-bas. Le jour, ils mettront un petit piqué. Le studio de télé de
M6, moi, je serais ravi.
Je n'irai plus. Donc, on habite là, on se voit l'hiver. Nous, on fait vivre l'activité l'hiver, etc. Et Pascal Obispo me donne un coup de fil, voilà ce qui se passe, j'aimerais bien faire un truc, je ne sais pas trop quoi, il y a Marc qui est là aussi, il y a un tel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est lui qui dit si on faisait un concert. Alors on s'est tous un peu regardés en disant un concert en 3 semaines, ça va être... Bon, nous au départ, je pensais que c'était un petit concert local.
Mais moi aussi.
Ça allait être une petite fête de village, quoi. Avec, il a dit non, on va essayer de taper plus gros. Il va dire, mais par contre, chacun dans son domaine de compétences. Donc toi Courbet, tu t'occupes des sous et des médias. Marc, tu t'occupes de tout le business, la logistique. Ils ont trouvé une association
formidable
qui fait les concerts que tu dois connaître que ça, qui s'appelle ODP.
Non, au FP.
Ouais, oui, les pompiers qui font le festival, notamment à Talence. Enfin bref, et chacun s'est occupé de ça. Et du coup, on a quand même passé une semaine où on était 4 à 5 heures par jour au téléphone en WhatsApp. Et ça a été très vite comme ça. Mais c'est vrai que c'est Pascal qui est un petit peu l'homme qui a dit il faut faire quelque chose.
Et il a contacté, c'est lui qui a contacté, j'imagine, les autres musiciens. C'est lui qui s'est occupé de les appeler. Ouais.
Non, voilà, le miracle, ça a été de. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit si tu fais venir autant de chanteurs, il faut que ce soit retransmis.
Bien oui.
Julien, M6, RTL, moi je suis sur M6, on s'est dit oh, on va tenter M6.
Et oui.
Premier miracle, M6 dit oui tout de suite. Deuxième miracle, il faut produire. Ça coûte beaucoup d'argent de produire un concert comme ça. Ils ont appelé, je ne sais pas si c'est toi.
C'est Cyril.
Cyril. Non, non. Ils ont appelé à Cyril, raconte.
Alors, l'histoire, elle est simple. C'est qu'on ne peut pas comme ça. Malheureusement, il y a des contrats. Il y a des contrats. Donc, il y a des émissions qui ont déjà été achetées. Et malheureusement, la grille, elle est déjà pleine pour la saison prochaine.
Ouais.
Donc, ils se sont tournés vers la production de Cyril Hanouna en lui disant, mais tu as une émission qui doit passer le 27. Mmh. Il y a ce concert. Est-ce que tu peux basculer? Tu ne fais pas ton émission. À la place, tu fabriques le concert. Il a dit, je vais le faire et je ne prendrai pas un centime. Donc, l'argent que vous me donnez, je le donne à la production pour acheter la scène, faire venir les caméras et tout, parce que tout n'est pas gratuit.
Bien
sûr. Il faut lui rendre hommage aussi.
Et chez M6, qui a pris la décision de mettre
patron,
le concert?
Le patron. Le grand patron, ça a été ultra rapide. Hein. Ultra.
Bon, tout
David
ça,
Laramendi, le basque.
Et, voilà. et Guillaume Charles aussi.
Oui, Guillaume Charles, évidemment,
Guillaume Charles,
directeur des programmes.
Qui nous a écouté et qui nous a bien aidé.
Bon, je suis content que tu aies cité Pascal Obispo. Bon, évidemment, on le connaît très bien ici. C'est quand même un familier, quoi. Quand il y a un téléthon, quand il est venu ici au Cap-Ferré faire un concert, mais bien entendu, on se rappelle du site d'action. On se rappelle il est toujours là quand il y a une catastrophe. Donc, je tiens à souligner que là aussi, donc vous me le confirmez, c'est lui qui dit, les gars, il faut faire quelque chose.
Oui.
C'est lui qui dit, je sais le faire, on l'a déjà fait, donc on va le faire. Parce que nous, aurait peut-être eu l'idée, mais moi, j'ai jamais fait
de concert.
Moi, je
peux pas faire un concert.
Lui non plus, on se serait dit, oh là là, on va jamais y arriver. Lui, il dit, on sait faire, on le fait.
D'accord, donc là, la répartition des rôles, elle se fait spontanément ou alors chacun dit, bah, tiens, moi, je fais ça, ça et ça.
Au début, ça tâtonne un peu jusqu'à ce que quelqu'un dise sur le groupe WhatsApp, maintenant, il faut que chacun soit dans son domaine de compétences.
C'est ça.
Courbet, les médias, Simon Sini, tu nous ramènes du business d'une manière ou d'une autre, toi, tu fais la scène, on trouve une attachée de presse que connaissait Pascal Obispo, tu t'occupes de toutes les relations avec la presse. C'est Courbet, Obispo, c'est pour ça, moi, qu'on m'a beaucoup vu, pas parce que je le voulais, parce que de toute façon, j'aurais préféré même être portrait, mais bon, ils ont dit Courbet, c'est toi qui parles avec Obispo, et c'est comme ça que tout se fait, quoi.
Et c'est drôle parce que je donne une anecdote, on a eu l'idée d'essayer de faire venir Zidane, on s'est dit, si Zidane, ce serait extraordinaire. Alors il y en a un qui dit, bah attends, moi je connais un pote à lui, bah moi je le connais en direct, moi c'est ma RP. Donc, chacun a contacté Zidane, il a dû prendre 7 messages dans la matinée, et on va voir s'il vient ou pas.
Mais
chacun a aidé.
Gernot, tu l'as rencontré à New York il y a quelques semaines, toi, tu passes lui un coup de fil aussi, ça fera 8.
Ça fera 8, je crois qu'il va. Je ne sais pas si c'est pas contre-productif.
Il aurait dit oui.
Il est très possible, oui. Bon, en tout cas, tiens, d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai vu qu'il avait pris comme relation presse Xavier Giraudon, qu'on adore, qui vient très très souvent ici au Café Ré. Donc on embrasse Xavier très fort et on est très heureux qu'il intègre ce staff. Il le mérite. Surtout qu'en plus, Xavier, il n'avait jamais vraiment tous les grands matchs. Il était souvent sur Kaiserslautern, Parme. Donc là, pour l'instant, il va retrouver la lumière et c'est bien.
Mais c'est aussi la personnalité de Zidane, parce qu'il a choisi un gentil, un mec intègre, un journaliste qui fait son job sans polémiquer, qui dit les choses factuellement, qui fait vraiment son boulot sans intriguer. Et moi, je le connais, mais vraiment, je le dis, ce type-là est d'une gentillesse sans nom dans le milieu du journalisme. Et ça prouve que Zidane, il a envie d'avoir des gens un peu normaux autour de lui.
Oui, aussi Pascal Planck, qui fait partie de son staff. Pascal, qui était un joueur à l'époque.
Il a joué un peu à Bordeaux.
Oui.
Mais avant, il était où? Avant, il avait cartonné
Lille.
À Lille.
Il était à Lille, oui.
Il avait un frère,
Stéphane et Pascal.
Ouais.
Et là, il y a Pascal qui est observateur des adversaires. Donc, c'est important aussi d'avoir un analyste qui voit jouer les autres.
Mais football, tu sais que j'ai gardé une partie exprès pour les Girondins tout à l'heure. Donc, prépare-toi, parce qu'il y a des choses à dire. On est bien d'accord. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas encore beaucoup parlé, ou voire pas du tout d'ailleurs, qui est Éric Jean-Jean.
Ah oui, bah Eric, évidemment, il a fait partie. Eric, c'est le monsieur musique du groupe RTL M6, puisqu'il fait beaucoup d'émissions sur RTL2. Il est vraiment très proche des artistes, puisqu'il a aussi une émission sur RTL d'interview d'artistes. Donc, il a beaucoup aidé là-dessus. Il a épaulé Pascal sur. Il est très proche de Benabar, etc. Donc, effectivement. Et lui, il est surtout très proche, Éric Jean-Jean. Lui, il s'est occupé un peu de la partie logistique. Pourquoi ? Parce qu'il organise, je sais, un festival qui, je crois, est à Talence chaque année, avec l'organisateur de festival. Il en est le présentateur officiel. Il a dit, bon, écoutez, on va prendre ces gens-là, je vous assure, ça va aller très vite avec eux. Et c'est lui qui a organisé un petit peu ça.
Alors justement, Marc, j'ai une question un peu délicate. Je la pose depuis plusieurs jours. Je ne trouve pas la réponse personnellement. Je ne sais pas exactement équilibrer.
Alors, elle s'appelle Sabrina. Voilà, je te donne la réponse.
Effectivement, mais je voulais ses mensurations, en fait, cher Julien. Salut, Benoît. Et donc, la question, c'est la suivante. On se sent un peu schizophrène en termes de communication. Parce que d'un côté, il y a une désolation. De l'autre, un été qui doit se poursuivre. Et surtout, il y avait cette fameuse dualité, on l'a vu, entre le Porche, le Cap Ferret, les riches, les pauvres. Enfin, on voit beaucoup parler, on entend beaucoup parler de ça. Alors, en fait, moi, j'essaie de passer un message, mais je formule mal, qui est le suivant. C'est que les épargnés peuvent aider les sinistrés. C'est que les, pardon pour l'expression, mais les à l'aise, ceux qui sont plus confortables dans leur vie, peuvent justement participer à organiser, comme vous, vous le faites par votre notoriété, à sauver les gens qui sont dans la mouise. Et donc, je n'arrive pas à trouver cet équilibre de communication. Comment dire, réjouissons-nous de faire quelque chose de merveilleux pour les sinistrés sans pour autant leur manquer de respect? J'y arrive pas.
C'est pas simple. C'est pas simple, on a navigué, chacun a fait comme il a pu, hein. On a eu beaucoup de critiques. Moi, j'ai été défoncé sur les réseaux quand j'ai vendu un t-shirt. Bon, enfin, on a eu plein de... Mais il y a eu des gens qui ont eu ce fameux débat, ils ont sauvé le Cap Ferret et pas le Porche. Donc, on a essayé de... Nous, on se sent un peu aussi agressé quand on entend ça, parce que comme ça venait de nous, quoi. Comme si nous, on avait demandé aux pompiers de nous aider, on n'a rien demandé du tout. Bon, bref. Et j'ai reçu un message, d'ailleurs, je vais le citer, pas le message, mais le jeune homme, le monsieur, je connais pas son âge, il s'appelle Johan, qui est un pompier du Porche, qui m'a écrit un long message sur Instagram où il m'explique vraiment ce qui s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, sans aucune colère, sans aucune polémique. Il n'en déduit rien. Okay. Il est factuel et j'ai trouvé ce message formidable. Il me remercie finalement de faire ce qu'on fait, donc il ne me défonce pas, il nous remercie. Et je vais juste garder celui-là comme message et je vais faire comme je peux.
Bon, très bien. Et toi, Julien?
Déjà, enfin, excusez-moi, mais on a la conscience hyper tranquille, quoi. Je veux dire, on a appelé personne. Nous, j'aurais donné, mais est-ce que vous nous voyez appeler des gens en disant, excusez-moi, vous laissez tomber la ville là-bas, vous allez venir chez moi? Mais c'est ridicule.
Laissez tomber la ville qui est en train de brûler et venez à 25 km où il n'y a pas le feu.
Et si on fait tout ça, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est justement parce qu'on se dit, mais c'est terriblement injuste que nous, on n'ait rien eu et qu'eux, ils ont eu tout ça. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, on les aide. Après, sur les insultes, alors évidemment, j'en ai eu, moi, c'était pour me faire ma promo. Donc, j'ai 61 balais.
Il y a ça.
Donc, à 61
balais. Pour te faire connaître.
Oui, t'as besoin.
Après 40 ans de carrière, pour me faire connaître, je me suis dit, tiens, je vais utiliser les incendies. Mais rappelons que c'est une minorité. C'est ce petit 5% des grilles là, qui sont sur les réseaux sociaux, parce que tous les autres, c'est merci, merci, merci. Et pas d'agressivité du côté du Porche. Après, concernant le Porche, mais évidemment qu'ils ont le droit de se poser des questions. Il faut leur donner des réponses. Moi, je serais à leur place, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas vous répondre, mais ils ont tout à fait le droit de dire on veut la vérité et je les soutiens là-dessus.
Alors, dès le départ, l'initiative était soulignée comme privée. Hein. Tu l'as dit souvent sur les réseaux, dans les annonces faites, Marc aussi. C'est un concert privé, c'est une initiative de gens, Est-ce que vous avez, à un moment donné ou à un autre, forcément eu un rapport avec les rapports publics? Quels ont été ces rapports-là? Est-ce qu'ils voient d'un bon œil ce que vous faites?
Il le voit d'un bon oeil, je ne sais pas trop. En tout cas, très vite, on a compris qu'il fallait que ça soit une initiative privée, parce qu'on commençait à, sans rentrer dans les détails, à pressentir... Ça serait bien qu'il y ait.
Il faudrait que.
Et là, on a dit, il n'y a rien. Il n'y aura pas un politique sur scène. Il n'y en aura pas un sur scène. Il n'y aura pas une mairie qui nous dira, quelle qu'elle soit, c'est grâce à nous. On le fait. Vous nous suivez, vous nous aidez. C'est bien. Sinon. Parce que, voilà, après, on a entendu, ça serait bien qu'il y ait. Qu'on puisse faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a dit, attendez, les gars, on ne parle pas de la même chose. Là.
Ça s'appelle de la récupération.
Voilà, oui, un peu.
Ouais, ce qui n'empêche pas de. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai remercié les maires. Des communes qui ont géré ça, je trouve, franchement, de manière extraordinaire.
Ça a mouillé la chemise.
Donc, à titre personnel, j'ai remercié les gens que je connaissais qui se sont impliqués. À titre personnel, j'ai rien à dire. Après, récupérer l'événement pour faire... Non, c'est pas l'objet.
Mais alors, pour être tout à fait honnête, ce que je suis en train de dire là, ça ne concerne pas forcément la ville de Lège. Ça concerne d'autres villes, mais pas du Porgeon, plus d'autres villes peut-être plus grandes, etc., qui auraient bien aimé être
associées.
Un peu associées à tout ça. Quoi.
Bon, enfin, toute ressemblance avec des villes perchées sur la Gironde serait pure coïncidence, bien entendu. Alors justement, est-ce qu'il y a aussi, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais là on est dans une démarche proactive, on va chercher des gens, on leur demande de participer à un concert, on leur demande d'envoyer de l'argent. d'argent. Est-ce qu'il y a eu aussi des initiatives du type on vous appelle, on veut faire des choses?
Oui, beaucoup.
Racontez-nous quelques bonnes volontés.
Moi, j'ai pas d'exemple à super précis au moment où tu me le demandes, mais j'ai eu énormément. Alors, il y a eu beaucoup de petits groupes de musique. Tiens, l'autre jour, je me suis accordé une petite demi-heure pour aller faire mon petit tour sur l'eau. Et il y a une dame qui vient m'accoster. Bonjour, monsieur Courbet. Merci. Le concert, c'est très, très bien et tout. Alors, je vous explique. Mon fils a un groupe et il veut vraiment participer. Il est très touché par tout ça. Est-ce qu'il est possible de l'intégrer à la programmation?
On va le mettre entre Zazie et...
C'est compliqué. J'ai eu beaucoup de groupes. J'ai eu des gens qui ont dit j'ai fait une statue pour les pompiers, j'ai fait une œuvre d'art, un cadre. Ouais. Est-ce qu'on peut le montrer lors de l'émission, etc. Mais évidemment qu'on ne peut pas, mais j'ai remercié tous ces gens-là. Et après, beaucoup de gens, j'aimerais bien être bénévole. J'en soupçonne certains. J'aimerais bien être dans les coulisses. Donc, s'il faut faire un sandwich, je le ferai. Mais j'aimerais
si
bien.
Si je peux avoir un badge, c'est chouette.
Mais le show était sympa.
Ouais. Ok, pareil, Marc.
Ouais, non, le seul moi qui m'a frappé, c'est quelqu'un qui m'a dit écoutez, bravo, super, la forêt, ça a brûlé. Maintenant, c'est comme ça. Mais il faut, la suite, c'est qu'il faut interdire la chasse dans la forêt parce qu'on ne va pas aller tirer sur les animaux, sur les cendres. Et là, ils m'ont embarqué dans une pétition. En disant, compliqué. Non, n'ouvrez pas la chasse en ce moment, les animaux ont brûlé.
Alors moi, je l'ai vu passer.
C'est super touchy, la chasse. C'est encore un autre truc. Mais voilà, ça m'a frappé. Les gens se projettent au-delà des incendies et presque après la reconstruction des gens.
Ce qui est terrible avec les réseaux sociaux, moi qui ai connu cette période où il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est que ça ne va jamais.
Jamais.
Si vous dites, je soutiens les gens qui ont le cancer de l'estomac, vous prenez 10 tweets. Et ceux qui ont le foie, ça vous en foutez. Je ne m'en fous pas, je dis juste. Et c'est toujours comme ça. Et vous dites les pompiers, mais les infirmières pendant ce temps-là qui ont soigné tous ces gens-là, vous n'en parlez pas, vous vous en foutez. Et vous lisez ça, il y a des fois, je vous assure, vous vous dites... J'arrête tout, quoi. C'est bon, je vais aller tranquille à la plage.
Ben oui.
Ça ne va jamais, mais ça c'est le principe de cette nouvelle génération.
Ok, alors vous le savez, on a un rendez-vous avec la Dépêche du Bassin, donc l'hebdo bien connu de la région. Et pour ce faire, on va se faire une petite page de publicité et de musique, le temps de les appeler très confortablement et puis de dire bonjour aux spectateurs qui sont venus nous rendre visite.
Publicité.
Conciergerie Jo Bassin.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations, entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. Tout l'été, bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jo Bassin, dites-nous ce que vous voulez et on s'occupe du reste.
Conciergerie du Bassin d'Arcachon, vous gérez beaucoup de propriétaires, beaucoup de locations et vous avez de nombreux paiements à répartir. Avec Sispay, simplifiez-vous la vie. Une fois le séjour réglé, chaque propriétaire reçoit sa part et votre commission est automatiquement versée. Plus besoin de multiplier les virements et les calculs. Caution préautorisée, encaissement sécurisé, suivi centralisé, tout est réuni sur une seule plateforme. Depuis 2011, Sispay accompagne les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs paiements. Sispay, le paiement simplifié, la gestion maîtrisée. Informations et contacts sur sispay.com.
Je sais bien, Muriel, que ça ne me regarde pas. Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix. Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas. C'est mon ami quand même, non, c'est pas lui qui m'envoie. Ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensemble. 6 ans de vie commune, mais je veux pas le défendre. Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est dommage. Et je te dis pas combien il souffre, ça serait du chantage. Muriel, je t'en prie, je t'en supplie, dis-lui oui. Dis-lui oui. Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de lui. La discussion consiste à l'écouter, à dire oui. Le seul moment tranquille, c'est quand il t'écrit. Mais les poèmes de 5 pages après, il me les lit. Il me raconte votre vie dans les moindres détails, ce qui se passe dans votre lit depuis vos fiançailles. Je suis un gentleman, je répéterai pas, c'est intime. Rassure-toi Muriel, espèce de petite coquine, dis-lui oui. Dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus le supporter, Muriel, aide-moi. Il va et vient la nuit, à n'importe quelle heure. Il fouille dans ma chambre pendant que je dors. J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal dans le bras. Il a fait semblant d'être somnambule pour que je l'engueule pas. Tu sais, c'est un mec bien, mais je veux pas t'influencer. Il gagne pas mal sa vie, un de ses murs pour le loyer. Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrible. Regarde-toi dans une glace, Muriel, faut être lucide, dis-lui oui. Dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter, Muriel, aide-moi, dis-lui oui. Il t'a trompé, c'est vrai. Avec ta mère, d'accord, mais ramène pas toi, toi. Muriel, mon enfant, je t'aide parce que je t'aime bien. Mais on s'en sortira pas si t'y mets pas du tien. Ah ! Dis-lui oui ! Dis-lui oui ! Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter, Muriel, aide-moi.
Very Good News avec la Dépêche du Bassin. Que les bonnes nouvelles de l'été.
De retour sur le plateau de Radio Very Good Cap Ferret et nous sommes toujours à l'hôtel des Pins chez l'ami Guernotte avec Marc Simoncini, avec Julien Courbet, le brutal qui s'est pété une chemise bleue aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il
Attention.
Est de mariage. Et puis l'ami Alexis Blad, le rédacteur en chef de la Dépêche du Bassin qui est avec nous au bout du fil. Comment ça va Alexis?
Ça va, moi je suis tongue, short, t-shirt pour la journée de bouclage, je reste à l'abri, donc bon. Tout va bien.
Écoute, on est très heureux de t'avoir au téléphone. Alors comme tu le sais, aujourd'hui c'est un spécial SOS Solidarité, non seulement le concert qui va y avoir bien sûr le 27 là-bas à Floirac, mais pas que, on parle aussi des possibilités d'acquérir du t-shirt, de téléphoner pendant le concert que l'on regardera à la télévision ou à la radio pour participer là aussi financièrement, j'ai envie de dire, à l'effort de guerre. Il y a des entreprises qui sont mobilisées, beaucoup de gens, et je suppose que la Dépêche bien entendu se joint à cet effort collectif pour les sinistrés de la région et donc a peut-être quelques questions à poser à nos invités. C'est à toi, Alexis.
Ah, bonjour à tout le monde déjà. Et effectivement, oui, ça, alors, c'est effectivement quelque chose qu'on avait évoqué, notamment parce que ça a été assez fulgurant au niveau de la vitesse où ça s'est monté et visiblement ça s'est bouclé, ficelé. Il n'y aura plus besoin de faire un appel d'ailleurs aux bonnes volontés, aux gens qui veulent payer une place, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est complet. Et j'imagine que vous avez fait la genèse un petit peu du projet, mais ce qu'on voulait savoir, c'était justement un petit peu ce succès fulgurant. Enfin, voilà, savoir en combien de temps il a fallu, en gros, pour vendre les places. On sait que sur une compétition sportive, etc., ça peut mettre quelques heures seulement. C'était aussi rapide finalement de mobiliser les artistes que le public.
Le public, il a fallu, je pense qu'on aurait pu tout vendre en 4 heures, mais on savait pas trop, donc on a mis un lot de place, et puis waouh, c'est parti, donc on en remet un autre, puis après ça a bugué évidemment, puisqu'on ne s'attendait pas. Donc je pense qu'on aurait pu vendre les 11 000 en 4 heures, ils se sont vendus en 6-7 heures, mais en 4 heures, si on avait été vraiment.
Pour vous donner quand même le niveau d'amateurisme du truc, c'est que pendant un moment, on a même douté qu'on arriverait à vendre les places quand même. On s'est dit, ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on ne vend pas les places?
S'il y en a 1000, on savait qu'on en aurait 1000.
Et s'il y en avait 1000, qu'est-ce qui... Voilà, ça s'était pas passé.
Ouais, alors du
ça.
Coup, et du coup, il aurait été possible, envisageable d'envisager une deuxième soirée, une troisième peut-être.
Non.
On y a tout de suite pensé. On a même pensé si on faisait un spectacle l'après-midi, un autre le soir, mais après c'est pas possible parce que tous les artistes, ils ont eux des contrats ailleurs, donc ils peuvent pas être là le lendemain. La salle, ils sont déjà très gentils. Ils vous disent, je vous la donne gratuitement, ce qui est énorme comme cadeau. Deux, c'est pas possible.
Et la diffusion, c'est une chaîne un soir, ça peut pas être une chaîne de soir. Ni
alors,
deux
à la rigueur, même si
soir.
Ça avait été qu'un soir, mais les artistes, ils pouvaient pas. Non, c'était. Et puis les chambres d'hôtel, du coup, faut redemander 100 de plus. Donc Marc, il a dit, vous êtes bien gentil, mais je vais pas rappeler
copain. Savoir maintenant.
Il faut savoir s'arrêter. Mais c'est vrai que si on avait su à l'avance, on aurait pu organiser ça sur deux soirs, quitte à ce que ça soit pas forcément les mêmes artistes.
Est-ce que du coup, on regrette de pas avoir été chercher une salle plus grande?
Hey, où est-ce qu'on aurait trouvé une salle?
Je sais pas, au stade. Au Matmut.
Oui, peut-être qu'on aurait dû, mais déjà.
À condition qu'elle soit libre.
Non, puis en plus de ça, il y avait nos amis de Sud-Ouest qui, eux, avaient Cure, ont Cure le lendemain. Il y a quand même Cure qui fait 20 000 personnes, place des Quinconces. Donc tout ça, c'est pas rien. Donc là, il va se passer des choses à Bordeaux entre jeudi et samedi. Hein.
Mmh. Ok, Alexis, à toi.
Ah, à moi. Et donc du coup, on est maintenant arrêté sur le nombre d'artistes. On va pas avoir de rajout de dernière minute.
On est déjà presque trop long maintenant. Et c'est terrible de dire ça, mais c'est quand même une émission de télé. Il y a des codes horaires et puis on peut pas libérer les gens, les lâcher dans la nature à 1h du matin. Et puis ça n'a aucun intérêt. Quand ça devient trop long, ça devient embêtant. Donc non, là on est complet de chez complet. Pas d'annulation. Je touche du bois.
Non, ça c'est bizarre. Alors là, c'est très d'annulation.
Mais si jamais il y en avait une, il y en a déjà d'autres qui attendent pour venir.
La dame sur la plage avec son groupe.
Alors, oui, voilà.
C'est sa chance.
Je vous ai entendu parler tout à l'heure des petites rencontres au coin de la rue, comme ça, en disant est-ce qu'on pourrait pas caser mon fils ou quoi que ce soit. Mais chez les artistes, justement, vous en avez refusé aussi ou pas? Enfin, il a fallu faire des choix finalement.
Non, en fait, ça s'est passé normalement. On en a appelé qu'on dit oui, puis après qu'on dit non. Voilà, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas. Après, il y a ceux qu'on dit oui et qui continuent à dire oui. Et après, il y a ceux qui sont arrivés après en disant peut-être parce qu'aussi ils se sont dit waouh.
Ça a l'air
beau. Marche bien l'histoire. Ouais. On aimerait bien y participer. Là, à eux, on a été obligé de dire non.
Pigé. Alexis, alors toi, justement, avec la dépêche, forcément, tu as peut-être envie d'un scoop. Julien nous a appris tout à l'heure qu'il y avait un certain monsieur Gims qui allait passer sur le bassin. Tu confirmes
alors,
ça ou pas?
Je sais qu'il est déjà passé, on en avait parlé il y a quelques années. Donc, moi, j'ai aucune confirmation là-dessus. Malheureusement.
Je suis pas l'agent de Gims. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un établissement ici, on a le droit de le citer.
Ben oui,
chez Nomad, notre ami Mad de chez Nomad, qui a beaucoup œuvré d'ailleurs, lui-même a fait beaucoup de repas pour les bénévoles, sachant que Gims était là, et sachant également que souvent, les artistes, quand ils font un concert, peuvent faire un petit. Showcase après a contacté l'équipe de Gims et qu'apparemment il est prévu qu'il passe après le concert, qu'il prenne une voiture et qu'il vienne chez Nomad pour faire un showcase.
Voilà,
mais alors, j'ai pas d'infos. Alors là, pour le coup, c'est complètement en dehors de l'organisation du concert.
Sûr,
j'ai aucune info.
Bon, en tout cas, c'était pour citer le petit tips à nos auditeurs, mon ami.
Non, moi je sais qu'il était effectivement, il y avait eu une petite soirée un peu comme ça qui avait été organisée, il me semble, il y a deux étés, je crois, du côté d'un établissement du Pila.
Alexis, je m'excuse de t'interrompre, mais alors, ça c'est une question qui peut-être nous intéresse tous. Comment est-ce que le Sud a vécu les affres du cœur et du Nord pendant les incendies? Est-ce que on a vu qu'il y avait une grosse réunion de chefs d'entreprise, justement, du Sud qui disaient nous on est ouverts par contre, les gars, si vous voulez venir consommer chez nous, faites-le. C'était moyen sport, ça, non?
Oui. Enfin bon, après, on sait aussi que les villes ont mobilisé les citoyens. Enfin, qu'il y a eu, il y a eu tout de suite des salles d'ouvertes, qu'il y a eu des collectes de denrées, des dons, etc., qui ont été recueillis. Mmh. Il y a même, on sait aussi qu'il y a des dons qui ont du mal encore à être répartis ou adressés à qui que ce soit, parce qu'il y en a eu tellement que
vous n'avez pas Julien Courbet dans l'organisation.
Je vais juste tempérer un peu ce que tu as dit, parce que moi j'y étais. à Arcachon. Effectivement, j'y étais quand ils ont commencé à dire, mais venez chez nous, etc. C'était pas une question de fair play. C'est une question qu'ils avaient personne, que la saison était en train de filer et qu'ils avaient entendu cette annonce n'allait pas en Gironde. Et ils étaient tellement flippés. Ne dites pas aux gens de ne pas venir en Gironde. Nous, Arcachon, il se passe rien. On n'y est pour rien. C'est pas notre faute s'il n'y a pas le feu chez nous, mais on ne peut pas fermer nos commerces. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, regardez, tout va bien chez nous. Venez au moins là en attendant de repartir là-bas. Je crois que c'était plutôt ça leur démarche.
Effectivement, le message qui était un peu à l'échelle de la Gironde et puis bon, des axes routiers bloqués qui ont de toute façon empêché naturellement les gens de venir pendant une période. Et puis il faut dire aussi qu'on a des remontées de commerçants qui disaient que de toute façon fin juin, début juillet, c'était loin d'être la folie par rapport à d'autres saisons. Donc bon, voilà, moyen fair play.
Julien a dit ce qu'il fallait, je taquine un peu, tu le comprends bien. Il y a un petit tirage de bourre entre les deux côtes. Mais peu importe,
mais comme
vas-y. Comme d'hab. Exactement. Ok, et donc vous, au niveau de la dépêche, je veux dire, forcément, vous vous intéressez à cet événement-là. Vous allez faire quoi? Un article spécial? Couvrir? Quel est le dispositif de ton journal?
On va évidemment relayer l'initiative, avoir un petit débrief aussi, compter les points à la fin, savoir ce qui se passe, et puis essayer de voir un peu après aussi ce concert, parce que il m'a semblé comprendre que ça se passe à Bordeaux, que tout ça vient pas mal de ces gens. Je crois on parlait de Jean-Jean tout à l'heure qui est originaire de Gironde, me semble-t-il. De savoir aussi, parce que il y a une possibilité de faire des dons, mais finalement à la France entière, en fait, de sinistrés, oui. Sinistrés qui vont bien au-delà de ce qu'on a connu en Gironde. Donc évidemment de savoir ce qu'on est capable de récolter après une soirée comme ça, et puis de voir aussi à qui ça va et comment tout ça va.
C'est la reconstruction qui va être sympa à suivre. La reconstruction pour les médias, évidemment, ça va être super à suivre, à filmer, à faire des articles, quand ça va reprendre vie. Parce que là, si vous faites la photo avant, après, ça va être fantastique. Là, vous avez un tas de cendres et vous allez avoir des commerces qui vont... Enfin, voilà, je pense que ça va être une belle aventure.
Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je voyais un monsieur qui disait, moi, je veux pas quitter mon terrain, tout était brûlé sur son terrain. Mais il dit, je veux pas quitter mon terrain. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est un camping-car, une caravane. Et je me suis dit, merde, mais en fait, finalement, entre le schéma, je fais un appel aux dons, l'argent va à la Fondation de France, ça repart dans l'association locale qui distribue à la mairie, qui identifie le gars qui a besoin de la caravane, qui achète la caravane. Bah, s'il y avait un système de plateforme où les gens disent, voilà ce dont j'ai besoin, et les gens disent, voilà ce que j'ai, je peux vous l'envoyer directement, on court-circuiterait déjà toute la partie financement, l'argent irait pour les choses qu'on ne peut pas offrir. Et je pense qu'il y aura un truc à monter en disant, j'ai besoin d'un extincteur, j'ai besoin d'une pompe, j'ai besoin de... Et les gens, on verrait directement. Et il n'y a pas c'est pas référencé les besoins.
Vous savez, comment ça s'appelle, les mobilhommes, l'argent là, qui a été récupéré ou que l'État va donner, acheter, louer, peu importe, 100, 200 mobilhommes, les gens préfèrent rester sur leur terrain. Je vous assure qu'ils restent, ils n'ont pas envie de partir.
Bien sûr.
On leur installe un mobilhomme et on le récupère après, on le vend, donc, etc. Mais c'est des choses comme ça qu'il faut, parce qu'après, on ne sait pas trop, c'est vrai, on a toujours...
C'est long.
Ben ouais. C'est long, quoi. Et là, on leur met un mobilhomme. Voilà. Vous avez une douche, ils sont super bien. Moi, j'étais voir les mobilhommes du camping qu'il y a dans la ligne droite, là-bas, en face de Cap Golf. C'était vraie maison, quoi. Donc, mettons-leur un mobilhomme à chacun. Ouais. Voilà, ils ne le paient pas, on le revend, il y a une petite perte, mais elle est compensée par les dons.
Et en plus, tu as le terrain à la reconstruction de ta maison. C'est quand même sympa d'être là, plutôt que d'être obligé de faire les allers-retours entre Dieu sait où.
Et ça fait travailler celui qui construit les mobilhommes en plus.
Superbe. Marc, alors justement, ça c'est quelque chose, j'ai envie de dire, que tu vis au quotidien, donc il veut être mon associé. Aujourd'hui, il y a des circuits plus courts. Les types qui se présentent devant vous, souvent, racontent justement des circuits plus rapides, plus efficaces. C'est un petit peu ça, justement, le présent et l'avenir.
C'est des malins.
D'échapper à tous les circuits dont tu parlais.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème. Il y a un problème, c'est compliqué, et lui, il voit pas le problème, il voit l'opportunité. Il dit, il y a quelque chose de compliqué qui existe, moi je vais essayer de faire la même chose plus simple, ou plus vite, ou moins cher. Et donc c'est pour ça que les entrepreneurs, ils adorent les problèmes.
Parce qu'ils veulent des solutions.
Mais c'est surtout pour ça qu'il y en a beaucoup en France, qui est le royaume des emmerdes. En France, tout est compliqué. C'est un enfer administratif, c'est un enfer normatif. Et donc, c'est un terrain de bénédiction pour les entrepreneurs.
Okay.
Pour les jeunes, juste une parenthèse sur cette émission, ce qui est dingue, c'est les cibles. C'est les jeunes. Les jeunes adorent ça, mais comme un programme de télé-réalité. Donc ça veut dire qu'ils ont cette fibre, qu'ils ont envie de créer. Donc aidons-les à créer, aidons-les à... à entreprendre, parce qu'il n'y a que des jeunes qui regardent cette émission, ils adorent ça.
Alors lui, il a les groupes de musique, mais moi hier, j'ai une dame qui m'a arrêté, qui m'a dit « Ah, vous êtes le Marc de la télé ?» J'ai dit, ouais. Oui. Elle me dit bah, « Je regarde avec mes enfants, elle était très jeune cette femme. » Je lui dis « Mais quel âge ils ont vos enfants ?» Elle me dit bah, « 11 et 13 ans. » Je dis « Mais vous regardez, qui veut être m'associer avec vos... Mmh. » Il dit « Ils adorent. » Je dis « Ah bah super, ça fera des petits entrepreneurs. »
Très bien. Voilà. Alexis, j'avais promis de te libérer parce que vous êtes en bouclage, c'est ça ?
Eh oui.
Bon, écoute, c'est sympa de nous avoir consacré 10 minutes. Donc, on va clore le petit espace des pêches du bassin. Et puis, ben, on se retrouve nous demain pour la sortie de l'hebdomadaire, d'accord ?
Tout à fait, pour de nouvelles aventures.
Allez, bon courage à l'équipe. Et
merci pour l'invite et puis à demain. Alors.
Allez, salut.
La Dépêche, tous les jeudis pour tout savoir sur le bassin.
Allez, on se retrouve ici avec Marc Simoncini, Julien Courbet. On est chez Gare Notre-Or qui nous a rejoint, qui a dû faire la fête hier soir. Il a des lunettes noires, il ne veut pas qu'on voit qu'il a des cernes. Et puis notre
l'honneur
ami,
de Maître Gims.
Brutal, oui, aussi, qui est avec nous. Et quelques amis à côté qui prennent le café. On est très bien, c'est une ambiance merveilleuse. Il ne fait pas trop chaud en plus aujourd'hui.
Non, il ne fait pas trop chaud,
pas
mais
mal.
On en parlait avec Marc tout à l'heure, c'est cet hôtel des pins. Enfin, moi, c'est...
Vas-y.
Je ne sais pas, c'est l'ADN de la presqu'île, je trouve. Voilà. C'est la construction, un ancien cinéma, si je me rappelle bien. Moi, j'ai connu ça avant.
Théâtre,
ouais. Il est resté dans son jus, mais vraiment, enfin, de venir au Cap Ferret et pas s'arrêter à l'Hôtel des Pins, c'est un
crime.
C'est un crime, mais vraiment, venez-y, c'est ça. Si vous aimez, si vous voulez savoir ce que c'est que cette fameuse ambiance dont on parle parfois, vous venez ici, vous buvez un café, vous dînez... Les murs, c'est les parles. Voilà, c'est 100 ans d'histoire. Quoi.
Si on veut tourner un Agatha Christie, c'est ici qu'il faut
aussi.
Le faire.
Mais Marc me disait la même chose l'autre jour, comme ça, off dans la rue.
Ah oui, ça avait rien à voir. Ah mais non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai découvert l'Hôtel des Pins après y passer depuis 15 ans devant.
Ouais.
Je suis venu dîner un soir et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas venu avant ? C'est un endroit magique qui est complètement hors du temps. Et alors là, d'apprendre que ça a 100 ans, j'essaie d'imaginer
exactement.
À quoi ça ressemblait le Cap Ferret à 100 ans.
Mais surtout, à quoi ressemblait Gare Notre-Or ?
Et qu'est-ce qu'il fait
quand il y a 100 ans, il s'est lancé là-dedans. Mais comment fait-il ? Quel est son secret ? C'est ça qu'il faut savoir.
Visionnaire.
Ça fait combien de temps que tu l'as, Gare Notre-Or ?
30 ans. 30 ans, ouais, et comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, c'était après le fameux match là, contre le Milan AC, que Afflelou n'y croyait pas. Et qu'il a dit, si jamais vous le faites, je vous triple la prime.
Ah ben oui, il est fou.
Ça, c'était en 96.
On est fou,
et j'avais un peu de cash pour pouvoir financer l'achat de l'Hôtel des Pins.
Grâce
et
à ça.
Grâce à ça, oui.
Incroyable.
Bah,
c'est
la prime de match, j'ai payé l'hôtel.
On est allé après en finale de la Coupe d'Europe. Et il y avait une demi-finale contre Prague qu'on a gagné aussi.
Et trois belles primes.
Oui, trois belles primes, voilà.
Trois ça belles c'est... primes, tac, un d'hôtel.
Bah, moi, je trouve louche
pour ajouter
un bout d'hôtel.
On n'avait pas les salaires d'aujourd'hui à l'époque.
Je trouve louche la défaite quand même contre le Bayern de Munich, Gernot, parce que tu y avais joué, tu avais déjà fait tes primes, du coup, tu pouvais laisser les Allemands gagner.
Il nous manquait Lisa, il nous manquait aussi Zizou suspendu. Bon.
T'étais speaker ou pas à cette époque-là ?
Oui. J'étais plus speaker, mais il m'avait demandé de revenir faire speaker. Et je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, que je descends sur la pelouse, j'anime un peu. Mais donc, comme je suis sur la pelouse, je vois les joueurs. Et je vois d'un côté les Italiens. Donc, on perd 2-0
à l'aller.
2-0 à l'aller. Je vois les Italiens, De Sailly, chaussettes baissées, qui s'amusaient. Ils se prenaient sur le dos, ils faisaient des galipettes, etc. Et de l'autre côté, je vois les Bordelais. Et Lisa jouait, on est bien d'accord.
Oui.
Lisa, c'est pas des cernes qu'il avait, ces deux traits noirs, des visages tendus là, les lèvres tendues, des gladiateurs, des mecs à qui on avait injecté quelque chose pour nommer vraiment. Et je suis monté et j'ai dit, je pense qu'il va se passer quelque chose, les gars, parce que d'un côté, ils sont trop décontractés, et de l'autre, on a 11 gladiateurs. Et alors, après, dans les tribunes, moi, il y a un type qui m'a pleuré dans les bras. C'est-à-dire que j'étais assis en tribune, au troisième but, il m'a pris dans les bras, il me pleurait dans les monsieur, on va se qualifier. Savait pas qui. C'était de la folie, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie.
Mais
le troisième but, c'est un truc de malade.
Bah, tu vois, tout est relié, puisqu'on est ici un peu grâce à ça. Voilà, donc,
Et trois jours avant, on était sur le bassin pour faire un mini-stage d'une journée, footing sur la plage du Grand Cro et aussi dans la forêt. Mmh. Et après, on a fait chez Maggie un petit repas le midi. On avait des huîtres, le staff avait des huîtres, les joueurs non, ils ont mangé des sols, du riz, etc. Et on a fait un deuxième entraînement l'après-midi, toute une journée sur le bassin, faisait partie de la préparation, trois jours avant. Et du coup, moi je trouve, ça ne m'était jamais arrivé, une perle dans l'huître que j'avais dans mon assiette.
Ah oui.
Et donc cette perle-là, je l'avais mis dans la poche pendant le match. J'étais loin de me porter chance.
C'est vrai. Ouais.
Mais c'est j'ai dû la perdre au troisième but. Après le match, elle n'est plus là, ma perle.
Mais honnêtement, regarde, est-ce que avant d'entrer sur le terrain, vous vous dites, bon, on y va, mais... Et c'est qu'au fur et à mesure que vous avez pris la confiance, ou vraiment, mais au fond de vous-même, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire. C'est quand même Milan et vous perdez 2-0. Quoi.
Oui, parce que j'avais vu déjà, comme tu as dit à l'échauffement, la veille, ils devaient s'entraîner les Milanais. Ils sont juste venus saluer leurs supporters. Ils ne se sont pas entraînés. Ils ont touché la pelouse, leur cravate en soie, bien habillée, très élégant. Ah, j'ai dit, ils se croient déjà qualifiés. Mmh. C'était là notre chance.
C'était qui le propriétaire à l'époque déjà ? C'était Berlusconi ?
Toujours Berlusconi. C'était la plus grande équipe.
Je confirme qu'elle était en soie, la cravate.
Patrick Vieira, tous les grands joueurs. Et du coup, j'ai dit, ils croient déjà qualifiés. Et c'était ça notre chance. Et j'ai dit, si on marque le premier but et on n'encaisse pas à la mi-temps, les gars, on va le faire. Et on a mis le premier but, Tolo. Après 1-0 la mi-temps, c'était déjà le public était derrière nous. C'était un 12e homme vraiment.
C'est vrai.
Et on l'a fait. Après, Zizou était là, Duga était là.
Aussi, la force qu'on avait, c'est qu'on avait Zizou, mais c'était pas, on ne savait pas que c'était Zizou.
C'est ça, oui, c'est ça.
Il était
ça,
déjà
c'est
bon.
C'était le Toby.
On ne savait pas qu'on avait l'un des meilleurs joueurs du monde sur la pelouse, mais il l'était déjà. Duga avait quand même un peu de technique déjà aussi. Quoi. Il y en avait plein d'autres. Qui avait d'autres
Et Lisa, qui avait cet esprit basque, là, qui était vraiment fantastique.
Après, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me redonnes la composition. Alors, ça serait un bon moment.
Oui, mais on avait Gaëtan Huard dans les buts. Guiguette, qui était aussi décisif à 3-0, il a arrêté un ballon de George Weah. Qui était.
Tu te rends compte qu'il y avait George Weah en face. C'était la grande. Alors, vas-y, Huard.
Après, on avait François Grenet.
Ouais.
On avait un côté gauche avec Lisa. Et Vitschke devant lui.
Vitschke.
On avait un côté gauche, je pense, le meilleur d'Europe. On avait.
Dans l'axe, c'était.
Dans l'axe, c'était. Il y avait Friis Hansen.
Ah oui, c'est vrai.
Le Danois. Il y avait.
Toys.
C'était très costaud.
Alors, écoute, j'ai
Jeff Toye aussi. Oui.
Voilà. J'ai une petite liste. Donc, tu l'as dit, Friis Hansen. Oui. Jean-Luc Dogon.
Oui.
Bichente, évidemment.
Oui.
Philippe Lucas.
Oui. Daniel. Demi défensif, il était à sentinelle devant la défense.
Daniel Dutuel.
Oui.
François Grenet.
Oui.
Qui a marqué.
Arrière-droit.
Arrière-droit. Oui. Richard Witzke.
Oui. Il est gauche.
Oui, oui.
Zinedine.
Je ne
connais pas. Christophe Dugarry. Ouais. Didier Tolo. Et Joachim Fernandez. Tiens, qui était l'entraîneur?
Qui est rentré en cours de match, Joachim, qui nous a quittés, malheureusement. Donc ça, c'était une équipe qui était en difficulté en championnat.
C'est vrai.
C'est pour ça que je m'étais retrouvé entraîneur, parce qu'Afflelou disait « Maintenant, tu prends l'équipe, ne sois pas ridicule contre le Milan AC, il faut se maintenir. » Donc ça jouait le maintien en championnat, mais en Coupe d'Europe, les gars se sont vraiment mobilisés à fond. Et avec l'Intertoto au départ, il y avait beaucoup de matchs qui étaient, parce qu'on n'était pas qualifié.
Ça démarrait début juillet ou fin juin.
Oui, ouais, il y avait beaucoup de matchs d'Intertoto déjà, avant d'arriver en Coupe d'Europe, vraiment. Et puis après, on avait ces trois étapes-là, Milan AC,
Prague.
Slavia Prague, deux fois.
Ouais.
On gagnait deux fois 1-0. On a presque oublié ces matchs, mais c'était hyper important.
Bien
Ils
sûr.
Avaient une bonne équipe à l'époque aussi. Et on avait la finale contre le Bayern. C'était la dernière année où il y avait deux matchs.
Mais il n'y a pas Duga.
Duga. On a suspendu Duga. On a suspendu Zizou. Lisa s'est fait blesser début de match.
Là, c'est pas terrible. Ouais.
Voilà, on avait ces trois jeunes grands joueurs qui sont devenus grands après.
Parce que ce que tu disais tout à l'heure, ils étaient en devenir,
encore Zizou.
C'était génial.
Après, je pense qu'il y avait de l'épuisement. Parce que la campagne, elle a démarré fin juin, cette Coupe Intertoto qui était ridicule. Il fallait commencer fin juin, à peine le championnat terminé, se taper 8 tours de coupe, aller dans des endroits à 2000 km avec des bus et des machins. Et quand tu arrives à la fin. Et puis, je suppose que moralement, la victoire a dû laisser des plumes. Enfin, je veux dire, les nerfs se relâchent, puis Prague, et après vous arrivez. C'est comme à Roland-Garros,
exactement pareil. Comme ça.
Parce qu'en face, il n'y avait pas non plus des demi-celles. Hein. Il y avait Lelpo, Panucci, Baresi, avec Costa Curta, Maldini, Vieira, Locatelli, Desailly, Donadoni. Roberto Baggio, Di Canio, Eragno
et Simoncini, ils étaient tous.
Tu vois,
il y en a beaucoup qui étaient champions et qui allaient être champions du monde. Ouais, ouais.
Non, ah oui, t'étais pour Milan, toi, en fait. Alors.
Non, moi,
Simoncini.
Moi, je suis marseillais. Donc,
ah bon,
l'année prochaine, quand on va jouer contre Mérignac, il y aura la même.
C'est la bande du petit bar.
Il y aura Dupont, Laporte, Jean-Jean, Courbet.
Bon, mais on connaît le secret des affaires de Marc Simoncini, c'est la bande du petit bar, c'est pour ça.
Quand tu parles, je suis parti, j'avais 15 ans. Hein, oh, d'accord. J'ai pas eu le temps de monter mon réseau.
On a le temps d'en faire. Vous l'avez compris, on a presque basculé sur la partie football de cette émission. Je voudrais quand même que l'on conclue, bien sûr, avec SOS Solidarité. On a dit, je crois, pas mal de choses à ce sujet. Vous avez été en plus très très complet les uns et les autres sur les réseaux. Donc forcément, il y a de la matière partout, de l'information absolument partout. Mais néanmoins, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que vous avez déjà commencé à évoquer tout à l'heure, c'est parce que c'est ça qu'il faut dire pour conclure, c'est qu'effectivement, vous évoquiez le fait qu'il fallait qu'on tire des leçons pour une fois de ça, quoi. Donc, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais maintenant, je voudrais effectivement que vous nous donniez les leçons que vous voulez absolument qui soient tirées de cet épisode.
Écoutez, moi, je connais pas bien tout ça, mais moi, je ne comprends pas qu'on fasse pas de pare-feu. Voilà, à mon avis, je pense que maintenant, il faut quadriller la forêt française comme New York. Et c'est pas parce qu'on abat 10 arbres, on en sauve 10 000. Donc ça vaut le coup. Et puis en plus, excusez-moi, mais moi je trouve ça beau un pare-feu. Non mais franchement.
Et puis c'est pas comme si c'était une forêt magnifique. C'est une forêt industrielle. Hein.
C'est pas mettre du gros, c'est joli un pare-feu.
C'est une forêt industrielle, voilà, donc c'est pas
fait,
très grave.
On fait des pare-feux. Voilà. On fait des pare-feux partout, okay. On quadrille, comme ça on perd un carré, et puis c'est tout. Il n'y en a même pas.
Ouais, c'est un débat idéologique sur les écolos dont je fais partie. Pour partie, donc c'est difficile. En plus, mon meilleur copain, c'est un vrai écolo. Il est Hugo Clément, il est vraiment un peu plus hard que moi. Mais les gens disent, la forêt, c'est naturel, il faut la laisser naturelle. L'homme ne doit pas intervenir. Et là, tu dis, non, celle-là, non. Donc c'est quand même un cas particulier, la Gironde. Et je te rejoins absolument. C'est absurde de ne pas faire des pare-feux. C'est une forêt industrielle. On en enlève 5-10% pour sauver le reste. C'est-à-dire que ça tombe sous le champ. Et ce n'est pas naturel de toute façon. Donc il n'y a pas d'objection philosophique. Et je trouve que les gens qui en ont sont un peu extrémistes dans ce cas-là.
À l'époque, le garde champêtre brûlait lui-même les parties de forêt pour être sûr que le reste n'allait pas être brûlé. Et ça se passait très très bien. Donc première leçon à tirer, évidemment. Deuxième leçon, simplifier. La forêt, elle appartient à la commune. Le maire gère ça avec les bénévoles, avec ses pompiers, etc. C'est lui le patron, il connaît les chemins, il sait ce qui peut brûler ou pas. Voilà, c'est à lui de reprendre le pouvoir.
Okay. Il y a une troisième chose aussi qu'on a vu avec le commandant des pompiers, Eric Lambre, qui nous a expliqué les difficultés de financement des SDIS. Ça, c'est très compliqué parce que les SDIS n'ont pas énormément d'argent. Il nous a dit qu'ils étaient financés localement.
Alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais ce qui est certain, c'est que les dotations dédiées aux pompiers ont baissé aussi. Donc, ils ont moins de matériel.
Ça, c'est un débat vraiment, vraiment compliqué. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur les Canadair, en résumé, il faut plonger dans toutes les lois, tous les textes, tous les votes, tous les groupes qui ont voté oui pour un truc, mais non, parce que dans les SDIS, il y avait un budget qui est parti aux pompiers, mais à la police. Donc, ils ont refusé de voter parce que ça partait à la police. Enfin, c'est un sac de nouilles. On est un absurdie. Hein.
Quand on veut, on peut. L'auto-national, le président de la République a dit il faut aider tous ces monuments. On fait un loto. Il y a un milliard qui est sorti, ou je ne sais plus exactement combien, des centaines de millions. Si là, il pense ou pas que les incendies sont une cause nationale, sachant qu'avec le réchauffement climatique et la sécheresse, de toute façon, c'est inévitable, puisqu'on n'empêchera jamais un abruti d'aller mettre le feu, etc. S'il veut faire quelque chose pour qu'on génère beaucoup d'argent, que l'on donne aux pompiers pour qu'ils s'équipent et qu'on donne des sous au pare-feu, parce qu'un pare-feu, ça coûte des sous, il peut le faire.
Publicité.
On est tellement bien à l'hôtel de la plage, à l'herbe, au bord de l'eau. Pour déjeuner ou pour dîner, pour boire un verre, des produits frais, simples, une ambiance amicale, familiale, des sourires. L'Esprit Cabane au service du plaisir et des moments partagés ensemble. L'Hôtel de la Plage, Village de l'Herbe, Cap Ferret.
La Maison de la Presse, Boulevard de la Plage au Cap Ferret, s'est ouvert toute l'année. Librairie et journaux, éditions, événements et signatures, jeux, tabac, cigares, vapotage, fournitures, cadeaux, consommables. La Maison de la Presse du Cap Ferret offre un service complet 12 mois sur 12. Malheureusement, ils sont aimables, souriants et compétents. On n'a pas de reproches à leur faire, mais on est dessus et on finira par trouver. Maison de la Presse du Cap Ferret, Boulevard de la Plage, l'indispensable partenaire du village.
Chez Neneuil. Chez Neneuil, c'est une petite dégustation d'huîtres façon Sébastien de Grave. Elle est posée sur la plage de la République démocratique des Jacquets. On vous y attend avec grand plaisir. Petite dégustation traditionnelle où il fait bon vivre tous les jours, midi et soir, on continue.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
De retour ici à l'Hôtel des Pins chez l'ami Guernotte avec Brutal, mais bien sûr Marc Simoncini et Julien Courbet, avec lesquels nous venons de passer une belle heure à tenter d'analyser un peu ce concert du 27 à Floirac, là-bas, le SOS Solidarité. Et on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'autres manières d'être solidaire de cette cause envers les sinistrés. Et donc de ce fait, je le répète, sur tous les réseaux de Julien, de Marc, vous avez énormément d'informations dans toutes les presses aussi.
J'insiste sur le t-shirt. Le t-shirt, c'est vraiment... Voilà. Là, vous, en plus, il vous reste un souvenir. Voilà, acheter un t-shirt, c'est des sous pour les sinistrés, mais vous reste un truc. Vous avez un souvenir. Vous pouvez venir avec votre t-shirt au concert. Vous pouvez le mettre le soir de la diffusion. Mais le t-shirt, je trouve que c'est du concret.
Bien sûr.
Alors, il faut remercier Dorian qui a dessiné le t-shirt bénévolement. Oui. Voilà, avec beaucoup de talent, c'est elle qui l'a dessiné, qui nous a offert le dessin.
Ok. Donc, il est déjà dispo. Les stocks sont déjà faits. Les 5000 sont prêts.
Les sont prêts. On n'attend plus qu'à le mettre sur le site de Carrefour dans les heures qui viennent.
Il n'est pas encore sur le site de Carrefour.
Non, c'est imminent. Très bien. Après-midi.
Ok, génial. Alors nous, ce qu'on voulait faire ici sur Very Good Café Ray, c'était vous remercier aussi parce qu'on a vu depuis le départ l'énergie que vous mettiez dans cette cause. On a vu que vous aviez vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, pris cela, mais à bras-le-corps. Vous êtes rentré là-dedans comme en mission. Vous êtes presque possédé par cette mission, je dirais. Donc notre petite place, de notre petite position, on a envie de vous dire bravo et merci, messieurs, pour tout ce que vous avez fait. Et je précise bien sûr, parce que vous allez le dire après moi, que ce n'est pas que Julien Courbet et Marc Simoncini, c'est
non.
toute une équipe.
Pascal Obispo.
Pascal Obispo.
Ouais, on dire un grand, grand, grand merci à Pascal Obispo.
Bien sûr, bien sûr.
Aux gens
sûr.
Qui ont fait de l'association, dont on va redonner le nom parce que j'ai des trous de mémoire à cause de l'âge.
ODP.
Voilà, ODP.
Œuvre des pupilles.
Il y en a plein qui ont œuvré à tous les niveaux.
Exactement.
Qui, ODP, en temps normal, en temps habituel, œuvre pour les pupilles, les enfants orphelins des sapeurs-pompiers.
C'est ça. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'ami Patrick Latas, Tutti Frutti, qui avait ses 40 ans. Et qui fermait cette année, a fait une édition spéciale aussi des t-shirts 40 ans Tutti Frutti, dont la totalité des bénéfices allait là aussi aux pupilles des pompiers. Donc beaucoup d'initiatives comme
moi,
ça.
Moi, je vais vous laisser juste sur un dernier mot. Je ne suis pas originaire d'ici. Moi, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Paris. Enfin bon, voilà, je suis arrivé ici un peu par accident, complètement par accident, il y a 15 ans maintenant. Mm-hmm. Je croyais vivre au paradis dans le sud, qui était chez moi. Mm-hmm. Et j'ai découvert que le paradis, c'était ici. Et je me suis attaché à cette région comme jamais. J'ai décidé d'y vivre à l'année. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce drame, je me suis senti personnellement touché alors que ça n'est pas chez moi objectivement. Et donc je voulais remercier tous les gens du coin, tous les gens de cette région de nous avoir accueillis alors que je suis un Parisien du Sud et qu'ils fassent que chaque jour je me sens chez moi ici et que je m'y sens... extrêmement bien. Et voilà, merci à tous.
Merci messieurs en tout cas et à toute l'équipe donc, qui vous accompagne depuis le départ de cette merveilleuse mission. Cette fois-ci, on se fait une petite musique. Alors à chaque fois, les musiques qu'on choisit sont évidemment des morceaux extraits d'artistes qui feront partie du casting du concert du 27 août. Bien évidemment, on se retrouve dans quelques minutes pour la partie football entre Guernotte et Julien. Sous le poids de cette moitié de vie.
je ne suis pas. Je veux bien tenter l'effort de regarder en face, mais le silence est mort et le tien me glace. Mon âme sœur cherche l'erreur, plus mon sang se vide et plus tu as peur. Faut-il que je t'apprenne?
Soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
De retour ici à l'Hôtel des Pins pour une partie football obligatoire, dirais-je, parce que ici nous n'avons que des amoureux des Girondins de Bordeaux. Vous l'avez compris, Julien Courbet a été en son temps speaker. Combien de temps d'ailleurs tu l'as été là-bas ?
Déjà, mon premier match, donc j'ai 61, j'avais 10 ans et Pelé jouait, c'était
mais
mon
non,
premier match.
Je les ai vus moi contre Santos, ben j'étais avec
ça.
Mon père.
Et voilà, mon frère m'a amené, c'est là où j'ai eu le coup de foudre. Après j'ai été à quasiment tous les matchs, y compris prenais la voiture avec mon frère pour aller les voir jouer à Nantes. Etc. J'y reste dans les buts et tout ça, je l'ai vu.
Il y avait des coussins en paille avec du entouré de roses.
Exactement. Et les places n'étaient pas réservées, donc mon frère me déposait devant le stade à 17h. Je poireautais jusqu'à 20h30. Je ne sais plus à quelle heure étaient les matchs. Et lui arrivait à la dernière minute. Il me disait, tu gardes le siège à côté. Mais il payait la place. Après, speaker, je l'ai été. Ben, ça s'est fait quand Claude Bèze a décidé d'acheter une radio, 8FM. Et là, ils ont dit, ben, quitte à prendre un speaker, on va prendre un amoureux du club parmi vos animateurs. Donc mon nom est arrivé immédiatement sur le tapis. Je l'ai été pendant des années. C'était fabuleux. Celui qui n'a pas... Vous savez, moi j'en ai fait des choses dans ma vie, mais mes plus beaux moments, c'est quand vous avez le micro, que vous êtes sur la pelouse, qu'il y en a 30 000 qui attendent un Bordeaux-Milan ou un Bordeaux, ce que vous voulez, Marseille, c'est encore plus
magnifique.
Chaud. Et que vous jouez avec le public, waouh, c'est des moments d'adrénaline, mais de dingue.
Certainement. Alors, Garnotte, évidemment, toi, tu es plus qu'un grand témoin, puisque tu es un acteur aussi bien sur le terrain que sur le banc de cette équipe. Donc, je vais quand même résumer le plus brièvement possible pour celles et ceux qui nous écoutent la situation actuelle des Girondins de Bordeaux. Vous me stoppez si, bien sûr, je me trompe. Les Girondins donc, ont été exclus des championnats nationaux par la DNCG le 30 juin. Exclusion confirmée en appel le 15 juillet. Et le président Gérard Lopez a ensuite cédé ses titres à Spartak Capital qui a apporté 10,6 millions d'euros. Mais surtout, le Comité national olympique du sport français a désormais rendu un avis défavorable le 14 août. Son conciliateur a proposé de maintenir l'exclusion donc des Girondins de Bordeaux, expliquant que les 10 millions et quelques apportés ultérieurement par le groupe Sparta constituent des éléments nouveaux qu'ils ne pouvaient pas substituer à la situation examinée par la DNCG. Nouvelle toute fraîche, les Girondins ont refusé d'en rester là et ont saisi lundi le tribunal administratif en référé suspension. C'est désormais l'ultime bataille juridique en cours pour tenter de retrouver le quatrième niveau national. À défaut, Bordeaux est actuellement destiné à évoluer en Régional 1, le sixième niveau, avec un premier match programmé le 29 août à Saint-Médard-en-Jalle. Et derrière la question sportive plane toujours le risque que l'échec de la réintégration compromette le montage de reprise et fasse ressurgir la menace de liquidation. Donc ça, c'est pour présenter effectivement le projet ou en tout cas la problématique factuelle. Alors maintenant, Garnotte, j'ai une question toute bête, mais les Girondins, c'est pas simple. Il y a à la fois une société sportive qui gère l'équipe première, les contrats des salariés, etc. Mais il y a aussi une association qui, elle, est présidée par Jean-Louis Triot. Donc, que sont les rôles respectifs, si tu le sais, de ces deux structures ?
Oui, tous les clubs sont organisés comme ça. Il y a une association qui, elle, a l'inscription auprès de la fédération du numéro d'affiliation.
Oui.
Donc, c'est indispensable pour pouvoir organiser un club et avoir des équipes, etc.
C'est elle qui possède le nom du club ?
C'est elle qui possède le numéro d'affiliation. Donc, c'est la base. Sans ça, tu ne peux pas jouer au
football. Concourir au football.
Donc, l'association s'occupe des plus jeunes,
oui,
et des filles. C'est-à-dire, ça allait jusqu'au moins de 15 ans, voire moins de 17 ans. Dans la dernière instance là, des Girondins de Bordeaux, c'était jusqu'au moins de 17. Et après, c'est la société qui prenait la responsabilité.
Entendu.
Voilà, donc, tout ce qui est football de jeunes, football féminin, c'est l'association.
L'association.
Et ce qui est professionnel, c'est la SA.
Mais alors, la SA ne peut rien faire sans l'association. Pas de numéro d'affiliation, ouais, pas de société. Tu peux, voilà, venir avec autant de milliards que tu veux. S'il n'y a pas d'association, tu n'auras pas
bon.
De, tu pourras pas jouer le championnat.
Tu ne fais pas la compétition. Alors là, c'est très important à savoir, parce que ça veut donc dire que actuellement, ce qui est en ruine, si j'ose dire, c'est la société.
Alors, déjà, les titres gagnés par les Girondins de Bordeaux, Guernaud me dit si je dis une bêtise, ils appartiennent à l'association. C'est l'association qui a été X fois championne, oui, de France, c'est l'association. Donc, si tout s'arrête, s'il n'y a plus d'association, Bordeaux perd tous ses titres. Elle est rayée
de la carte de football.
Voilà. Mais maintenant, effectivement, après, si la société n'a plus d'argent, donc ce qu'il faut aujourd'hui sauver, c'est l'association.
Nous avons actuellement l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux. Elle a été fondée en 91-92 avec Jean-Didier Lange,
oui,
et Philippe Charron, qui étaient à l'époque les porteurs d'une initiative qui était destinée à faire un plan de cession, puisqu'on avait déjà été rétrogradé, vous vous rappelez, en 91, mais seulement en deuxième division, pour des problèmes financiers.
D'accord.
Ensuite, on est donc reparti avec une nouvelle association que Jean-Didier Lange avait très bien organisé avec l'aide d'Alain Flelou, qui lui a pris la société. Et ensuite, on a réussi à remonter tout de suite. On était seulement en deuxième division et pas en quatrième ou cinquième comme aujourd'hui. Et on a pu repartir tout de suite avec l'obligation de remonter. Parce qu'on est reparti à zéro, c'était ça le plus important. À l'époque, il manquait 150 millions de francs. Et on est reparti à zéro avec plan de cession, c'est-à-dire que les actifs de l'ancienne association ont été rachetés avec 20 millions de francs qui étaient à la demande de Chaban-Delmas, qui était arrivé par Isis Montenay à l'époque. Donc, okay, du coup, avec les 20 millions, ils ont payé tous les créanciers.
Okay.
Et du coup, on est reparti à zéro. Ça, c'était formidable. Il n'y avait plus de dette.
Ouais, ouais.
Mais il fallait remonter cette chose qu'on a faite en 91-92.
Très bien. Alors, figurez-vous, je suis avec Julien B. au téléphone, là, qui nous a envoyé un petit SMS tout à l'heure en expliquant que l'asso possédait aussi le nom, les Girondins de Bordeaux, le nom, bah, c'est à l'association. Et donc, Julien, vous le savez, c'est le commentateur depuis plus de 20 ans maintenant de ces Girondins de Bordeaux. Et il est totalement amoureux de ce club. Il a écrit des anthologies. Il veut même qu'il y ait un musée des Girondins qui se construise. Donc, vraiment, c'est une personne qui est qui a les Girondins chevillés au corps. Et il est avec nous au téléphone, ça va Julien ?
Salut Hervé, salut à tous.
Voilà,
salut Julien.
Un autre Julien Courbet.
Salut Guernaut.
Et Guernaut avec toi. Voilà. Donc tu voulais apporter une précision sur l'association, camarade.
Oui, non, mais je voulais. Enfin, tout ce qui avait été dit était totalement correct. C'est vrai que le palmarès appartient à l'association. Le nom également des Girondins de Bordeaux appartient à l'association. Donc ce qui est très important, si vous voulez, c'est qu'il va falloir qu'on préserve cette association si jamais le club venait à être liquidé, parce qu'il pourrait y avoir des dettes de transfert liées à l'international qui pourraient être mises sous le compte de l'association en cas de liquidation. C'est de l'ordre de 5 millions d'euros.
Ah oui.
Donc c'est pour ça que Jean-Louis Triot disait hier chez Confrères de Sud-Ouest qu'ils étaient déjà en train de réfléchir. Il y a déjà 1,8 million d'euros qui ont été provisionnés pour préparer la saison de toutes les équipes, mais il y aura ces 5 millions à provisionner, parce que si l'association venait également à tomber, là ce serait terrible. Ça voudrait dire qu'il faudrait tout recréer, palmarès serait perdu, le nom devrait être changé et le numéro d'affiliation serait plus du tout le même. Donc ça voudrait dire la destruction totale du club. Okay. Donc il faut préserver cette association. C'est véritablement le point d'orgue du club, c'est cet asso.
D'accord. Et est-ce que justement, je sais pas, je suis naïf, je connais peut-être pas bien le dossier comme vous, mais est-ce que justement le fait que l'association survive, mais pas la société, ce serait pas finalement très positif pour le futur des Girondins et on se débarrasserait finalement de ces scories qui polluent depuis toutes ces années?
Il y a ça, oui, ça c'est certain. Après, il y a qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être aux portes du monde professionnel ou est-ce qu'on veut se retrouver en 6e division avec les, je pense que Gernot pourra abonder dans mon sens, avec les divisions qui ont énormément augmenté leur niveau ou seulement le premier peut monter. Moi j'entends, c'est là que de nombreux clubs ont réussi à le faire, c'est vrai, mais le football a changé depuis ce temps-là. Et le football est devenu beaucoup plus difficile dans les divisions inférieures. Alors oui, évidemment que ce serait le moyen de repartir à zéro, ce serait le moyen d'effacer cette terrible période de Gérard Lopez au club des Girondins de Bordeaux. Mais il y a quand même un risque du fait qu'on pourrait être dans les abîmes du football français pendant très nombreuses années. Okay. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Julien Courbet.
J'ai une question à poser à Julien. Mais alors, en admettant qu'on ne parte pas du plan le plus terrible, à savoir on sauve l'association, mais il n'y a plus du tout de société. Si aujourd'hui, on veut rester au niveau où on est pour être plus proche du niveau professionnel, il faut combien d'argent aux repreneurs pour assainir tout ça et repartir?
Ben, en fait, il y a deux choses. Soit un repreneur dit, comme Sparta aujourd'hui, parce que Sparta, ils ont d'ores et déjà dit que si jamais il n'y avait pas la possibilité d'être en National 1, ils ne pourraient pas rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plan de continuation qui est en place du côté des Girondins, qui coûterait aux alentours de... Bon là, cette année, pour préparer la saison, c'était 10,6 millions d'euros. On est à peu près à ça sur chaque année, un petit peu moins peut-être au fur à mesure que les années avancent.
Il faut rembourser combien, Julien, à peu près?
C'est 26 millions. En fait, il y avait une dette de 100 millions qui a été écrasée à 26 millions par le tribunal de commerce.
Les 5 millions sont compris là-dedans, là, de transferts internationaux?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Voilà, donc en fait, l'histoire, elle est simple. Hein. Soit quelqu'un vient et met 26 millions et on repart, sachant qu'il ne les mettra pas d'un coup, puisque je pense que ça doit être étalé. Mais c'est ça le problème, c'est arriver avec autant d'argent qui va servir en fait à payer une dette, pas à construire. Comme si Gernot, il achetait l'hôtel, on lui disait, mais les 10 millions de ton hôtel, ça, tu ne feras pas d'hôtel avec. C'est juste pour élaguer les arbres, ouais, etc. Et après, tu pourras construire. Là, tu dis, mais je n'ai pas le budget, c'est là où c'est terrible.
Exactement. Alors, évidemment, là, ce qui est le plus difficile à admettre pour la plupart des suiveurs, des amoureux du club, c'est qu'en fait, ce que disait Hervé dans sa présentation, c'est que le CNOSF a juste dit, l'argent est arrivé trop tard, donc on ne veut pas statuer. Donc, on est en train de se dire que peut-être que le club des Girondins de Bordeaux va être liquidé parce que l'argent est arrivé trop tard, alors qu'il y a eu, sur un compte séquestre, 10,6 millions d'euros apportés par les nouveaux investisseurs, okay, qui ont aussi mis 10 millions de côté sur un compte chez la banque JP Morgan pour dire voilà, nous on est prêt à financer les trois prochaines saisons. Donc on va voir ce que va dire le tribunal.
Julien, oui. Est-ce que si on repart à zéro, donc le repreneur, on a sauvé l'association, le repreneur arrive, il sait que lui pour le coup l'argent qu'il va mettre, ça sera pour investir dans des joueurs et tout, est-ce que du coup ça amène de nouveaux noms, de nouveaux sponsors, de gens costauds qui se disaient peut-être avant, attendez, moi je ne vais pas donner des sous pour payer des dettes, moi si je viens, c'est pour acheter des joueurs. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens comme ça, si on repart à zéro, qui seraient prêts à mettre de l'argent?
Alors déjà, quand vous êtes en monde amateur, on n'achète pas de joueurs, hein. C'est pas possible. Donc faire venir des joueurs et les payer, oui, ça c'est sûr que ça va être important et ça peut évidemment amener aussi, ce qui est important, c'est le local, c'est-à-dire faire revenir toutes ces entreprises locales qui depuis quelques années et même avant même, je vais dire, l'arrivée de Gérard Lopez, commençaient un petit peu à moins s'investir dans les Girondins de Bordeaux parce que le foot business, parce que ce que ça draine autour du football aujourd'hui, peut-être que ces investisseurs locaux, peut-être des grands châteaux, peut-être reviendraient se glisser dans une nouvelle économie autour du FC Girondins de Bordeaux qui a perdu totalement ses investisseurs locaux. Il n'y en a plus du tout.
Ok. Alors Julien, tu sais quoi? J'avais promis à l'autre Julien de le libérer vers 12h30. Il a vraiment une obligation. Donc toi, tu vas rester un petit peu avec nous si tu veux bien et on va continuer à discuter avec Gernot. Mais avant cela, je voudrais faire un spécial remerciement à Julien Courbet aussi parce que figure-toi que Radio Virgule Cap Ferret aussi est un peu sinistrée. On a loupé un morceau de la saison. On a quelques annonceurs qui ne nous régleront pas. Et c'était important, si tu veux, que quelque part, on puisse faire du beau et du joli contenu comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui. Et Julien, qui a quand même, j'ai envie de dire, chaque minute comptée, qui depuis déjà des semaines se dépense dans tous les sens, a trouvé quand même le temps de passer ce moment avec nous, de venir avec Marc Simoncini aussi. Et donc, voilà, il n'a pas fait qu'aider la grande cause des sinistrés. Il a aussi donné un coup de pouce à cette radio. Ça fait d'ailleurs 20 ans qu'il le fait en venant à chaque été. Donc, Julien, merci infiniment.
Merci à toi. Et je profite de la présence de Gernot pour lui dire que je vais faire une résa, je crois, pour début de semaine prochaine, pour venir dîner à l'Hôtel des Pins, qui est l'endroit où il faut venir dîner, je le précise.
Parfait. Super, merci beaucoup.
Merci Julien. Mon Gernot.
Merci Julien, et à une très prochaine fois.
Allez, à très vite.
Envoie-moi un selfie avec ton maillot,
d'accord,
s'il te plaît, avec ton t-shirt.
Avec le t-shirt, merci
Instagram.
À vous.
Merci.
Bonne journée.
Salut.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
On est toujours en ligne avec toi, Julien.
Oui, je suis là.
Parfait. Et Gernot, tu restes avec nous. On est toujours avec Julien, bien sûr. Cette fois-ci, Julien B, qui, je le répète, est le spécialiste des Girondins de Bordeaux. Toi, tu étais petit, il y avait des gens, ils avaient de la blédine et ou des céréales dans leur biberon. Toi, tu avais le Girondin.
Exactement. J'ai été élevé au Girondin de Bordeaux.
Et tu as un rapport amical ancien déjà avec notre ami Gernot. Donc, je vous propose peut-être d'échanger. Gernot, est-ce que tu as quelque chose à préciser ou à demander à Julien ?
Bon, Julien, c'est quelqu'un d'extraordinaire déjà. C'est quelqu'un qui est né à Claouet d'ailleurs, où j'habite.
Ouais.
Et je connaissais ses parents, etc. Donc, c'est l'histoire des Girondins, c'est lui aussi, parce qu'il a toujours relaté tout ce qui s'est passé. Il a écrit plusieurs livres sur les légendes, sur le stade, sur tout ce qui s'est passé au club. Donc, je suis fier d'avoir tous ses livres. Et puis, souvent, j'en prends pour mes amis, que je vais leur offrir aussi pour l'anniversaire, etc. Et ils sont tous ravis de voir ses livres. Et Julien, en plus, c'est pas seulement un passionné, mais c'est quelqu'un d'extrêmement humain, passionné, qui donne beaucoup de son temps à ce club.
Et oui, parce que c'est pas ton métier principal, Julien.
Non, c'est pas mon métier principal. Ça fait 20 ans que je commente les matchs et que je suis autour du club, mais effectivement, j'ai une activité à côté qui me permet de faire manger et de faire vivre ma famille aussi. Et les Girondins, c'est un plus, c'est une passion à tous les niveaux.
Okay. Alors écoute, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. On va pas trouver la solution aujourd'hui, alors que ça fait des semaines ou des mois que tout cela est très compliqué. Bon, je crois qu'on a un petit peu quand même bien donné le topo. D'un côté, une société, de l'autre côté, une association. Donc, préserver à tout prix l'association, voilà, pour garder le nom, pour garder le palmarès. Si on a ça, au moins, bah, tant pis. Si, comme tu le dis, le football est devenu plus difficile, mais que ça prend plus longtemps, mais qu'on a quand même un avenir sain et encore le nom et le palmarès, c'est un moindre mal.
Oui, oui, non, mais c'est certain. C'est certain. Et puis l'interview du président Trio est quand même rassurante hier, c'est-à-dire que l'association est quand même sur le qui-vive, elle est prête, elle se tient prête, et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des jeunes, il y a une école de football, et cette école de football, le président Trio l'a clairement dit, elle n'est pas en danger si jamais la SA venait à être liquidée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça rassure les parents, ça rassure toutes les personnes qui font vivre, et les bénévoles aussi qui font vivre le club et cette association. Et puis, c'est vrai qu'à côté, on attend quand même de savoir si le tribunal administratif permettra à l'équipe première de rester en N1. Voilà, le monde professionnel n'est qu'à une porte. Il était vraiment pas loin d'être la saison dernière, puisqu'on rappelle que Bordeaux a fini deuxième.
Oui, il y a un karma, mon Julien. Quelque part, le fait qu'on le loupe deux fois suite de très peu, ça veut dire quelque chose.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà, on a eu un fossoyeur à la tête du club pendant de nombreuses années. Il a tout fait de façon catastrophique, que ce soit du côté du sportif, que ce soit du côté financier. Et ça a été la catastrophe. Alors après, il ne faudra pas oublier aussi qu'il y a eu d'autres étapes qui ont fait que ce club a souffert. Parce que même sous M6, il avait déjà des très, très grosses dettes. Mais c'est vrai que Gérard Lopez a enfoncé le clou de cette société anonyme des Girondins de Bordeaux.
Bon, ok Julien. Alors, Gernot, une dernière question peut-être, parce qu'on va enchaîner, nous, pour terminer cette émission. On a encore des nouvelles et de la météo à donner. Mais tant que tu as Julien, tu as peut-être encore un dernier échange avec lui, si tu le souhaites.
Oui, je pense que le budget de l'association de 1,5 million, 1,6 million, là, ça ne va pas être un problème. C'est l'éventualité de devoir payer pour les transferts et autres,
encore
5 ou 6 millions. C'est ça qui est dommage, que ça retombe sur l'association et que ça puisse pas être liquidé
mis sur le dos de la société.
La société, oui. Donc c'est là-dessus. Et puis aussi entre R1 et R2, c'est quand même une année de différence.
Ben oui.
Donc les autres ont été, je pense, en R2, hein, que ça soit okay, Nord.
Oui. Ou, c'est ça.
Voilà. Donc on espère que ça soit R1, au moins ça, avec des gens sains et avec Jean-Louis Triot qui est le capitaine de ce bateau. Moi, malheureusement, je suis encore sous contrat avec le Bénin jusqu'à la fin de l'année.
Et donc là, c'est là où je place ma blague. Si tu es avec le Bénin, c'est pas malin.
Oui. J'aurais bien voulu apporter un plus encore au sauvetage du club.
Bien sûr.
Et mais bon, on verra ce qui va se passer après. Il y a ma fille qui joue au Girondin. Je l'emmène trois fois par semaine au Hayon pour faire les entraînements. Et avec les U18 là, des Girondines, ça se passe très très bien.
Très bien.
Il y a Jean-Jacques Gresser, il y a des gens qu'on connaît qui sont toujours là et qui sont les garants un peu d'une future association qui va être bien gérée.
Très bien. Bah, écoute, Gernon, merci pour cette conclusion. Julien, pardon de t'avoir appelé comme ça en loose day, mais bon, après tout, tu t'es manifesté par SMS et tu as bien fait. Ça nous a permis de t'entendre. Et moi, j'aurais peut-être pu t'inviter, mais tu as compris, j'avais un plateau avec plein de gens, donc c'était un peu compliqué. Donc c'est parfait.
Non, y a pas de problème.
Tout est bien qui finit bien. On t'embrasse. Bien sûr, on se soucie pour toi aussi, parce que ce que tu peux pas dire, c'est que non seulement ta passion depuis 20 ans, mais en même temps, toi, tu les commandes, ces matchs-là. Et donc, évidemment, un média ne va pas aller suivre forcément un
question
club
encore,
en R1,
est-ce que tu as été au dernier match contre Choré?
Non, j'ai suivi le match en vidéo.
Oui, d'accord. Ouais. C'était pas trop mal. Hein,
Non, mais c'est, franchement, il faut dire ce qu'il y a. Les joueurs font leurs entraînements normalement. Ils ont la motivation pour faire les matchs. Ce qu'ils vivent, c'est horrible parce que c'est juste le mot qu'on peut dire. C'est qu'ils ont perdu sur le collectif que 4 joueurs qui sont partis, ce qui est très peu par rapport à la situation du club en ce moment, que 4 joueurs sont seulement partis. Donc, ils sont là, ils attendent la sanction. Ils attendent peut-être aussi la bonne nouvelle. Donc, il faut les féliciter parce que ce qu'ils vivent cet été est horrible et pourtant ils sont là, ils font les matchs amicaux, ils font plutôt de bons matchs. Les matchs amicaux que j'ai pu voir ont vraiment montré de belles choses. Donc,
il y en a encore au programme d'ailleurs, il me semble.
Bah, match alors, amicaux. Il devait y en avoir un, mais il a été annulé. Là. C'est Trélissac finalement qui a décidé de ne pas venir. Évidemment, on devrait savoir ce soir, je pense, le tribunal administratif ce qu'il décide, si le référé en suspension est accordé.
Les Cap Ferré serait prêt à les remplacer pour un match amical.
C'est vrai.
Mais il faudrait effectivement le dire à Arnaud De Carli ou peut-être à l'entraîneur directement. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien qu'ils aient un autre match avant le début des saisons parce que ça va arriver très vite. Mais problème, c'est que on est tellement suspendu à cette décision qui peut tout changer. Parce que juste, on parlait pour finir, après je vous laisse tranquille, c'est qu'on disait la fameuse dette des transferts de la FIFA qui est de 5 millions d'euros. Pour comparaison, ce qui nous arrive en ce moment est arrivé au Chamois Niortais. Ils ont eu la dette, la fameuse dette qui s'est répercutée sur l'association. L'association a été également liquidée, ils ont tout perdu, le club n'existe plus, ils ont dû le refaire entièrement. Ouais. Et eux, elle n'était que de 300 000 euros.
Ouais.
Voilà. Donc c'est pour dire à quel point c'est quand même sur un fil tout ça, pour les Girondins.
Ok camarade, on l'a compris, les enjeux demeurent, mais tout pour l'association. Voilà un petit peu le message. Voilà. Merci beaucoup Julien, on se revoit rapidement à
Merci
titre amical
vous,
en ce qui
me
concerne. À bientôt, salut.
Avec plaisir, salut.
Ciao.
Mais qu'est-ce que tu t'es mis?
C'est de la crème, c'est pour éviter les coups de soleil.
Tu devrais essayer la graisse à chaussures. Et la peau, c'est du cuir.
Ah oui.
Gants de soleil.
Sur Very Good Cap Ferré. Nous sommes toujours donc ici à l'Hôtel des Pins et on va terminer cette émission par trois étapes, j'ai envie de dire obligatoires. On a des petites nouvelles à vous donner, de la météo ensuite. Et puis je commence par vous dire que signé, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire avant, mais Ronan Le Fex, qui a écrit un livre dont on a déjà parlé en juillet et qui dit « Joue à l'entraînement comme si tu faisais un match ». Donc c'est effectivement un entraîneur de tennis qui motive ses champions par le fait de leur dire qu'il n'y a pas de séquence d'entraînement ou de match, il faut mettre de l'intensité tout le temps. Et c'est ce qu'il essaie de promouvoir dans ce livre qu'il signait, ou peut-être signe encore un peu d'ailleurs à la Maison de la Presse aujourd'hui même. Donc on va passer tout de suite aux nouvelles, s'il te plaît.
Michel, ma belle.
Les bons plans de sortie, c'est Michel Capferré qui les donne. Les super glaces artisanales, le coffee shop, le bar à vin sont en incontournable. Michel Capferré, route du Ferré au canon.
Et oui, alors, vous l'avez compris, la route du Crau est réouverte. Donc, on peut à nouveau aller à la plage préférée de Guernotte, puisque c'est là où on peut encore mettre des strings. Et donc, le principe est que la baignade est surveillée de 11h à 19h. Toutes les activités nautiques ont repris. Le surf, évidemment, et puis les moniteurs sont là. Le parking est réouvert. Par contre, il y a des travaux forestiers en cours le long de la départementale. Donc, on se limite à 50 à l'heure. L'accès à la forêt est interdit, bien sûr, aux véhicules, aux vélos et aux piétons. Et l'aire du camping-car et camping est toujours pas accessible au public pour le moment, pour des raisons très faciles à comprendre, puisque c'est en forêt. Voilà. Et puis, hier soir, il y avait effectivement la petite fiesta là, de Jean-Pierre Marladeau. On en parlait déjà hier. Donc, il accroche ses toiles là-bas dans le village des pêcheurs du Cap Ferret. Il y avait un petit groupe, un petit verre à boire. Je crois qu'il y a été, Guernotte, non ?
Oui, je suis passé, très sympa. Il y avait de la musique, il y avait une bonne ambiance. Un petit coup à boire, des huîtres, évidemment. Et puis, ces tableaux qui sont... accrochés au
sur les cabanes, quoi.
Des chalets, des cabanes, vraiment, c'est super chaque année, c'est un plaisir énorme de voir ça.
Bon, très bien. Jean-Pierre Marladeau, donc un artiste qui compte ici au Cap Ferret. Sachez d'ailleurs que j'attends avec impatience un jour où un vernissage ou une petite réunion se fera avec de la choucroute ou avec du cassoulet. Il y en a marre des huîtres, ce sont tout le temps des huîtres. La braderie. Alors la braderie, elle commence demain, du 20 au 23 août, de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours de braderie pour tous les commerçants de Lège-Cap-Ferret. Ce n'est pas seulement un ou deux ou trois villages, ce sont tous les villages de Lège à ici qui sont concernés. Donc une occasion de se faire plaisir et en consommant local. C'est une communication importante de la ville que de dire de consommer local. La rentrée littéraire, on en parlera à partir de demain également un petit peu plus. Elle se situe du 20 au 22 août. Donc c'est la nouvelle rentrée littéraire du Cap-Ferret, plage du Mimbeau, tous les jours à partir de 17h30. Et donc, vous avez le programme complet sur le site de la ville. Les marchés gourmands, dès ce soir, c'est le marché gourmand de Claouet.
Miam, miam.
Miam. Et puis le lendemain, le jeudi 20 août, c'est le marché gourmand de Pierraillan. Tu y vas, Guernotte, toi, sur les marchés gourmands ?
Oui, bien sûr, à Claouet, j'y suis.
Bon. En tout cas, on t'attend là-bas et on espère que tu as un solide coup de fourchette parce que crois-moi qu'il y a des très belles spécialités qui sont proposées et puis de la convivialité, de l'amitié, tous ces moments qui sont précieux à retrouver, bien entendu, après tous les événements tristes que l'on a vécu. Et enfin, je vous redonnerai aussi plus largement le programme complet des fêtes de l'herbe du 21 au 23 août. Elles me tiennent à cœur parce que je suis un ancien footballeur du Lège-Cap-Ferret et que les fêtes de l'herbe sont au profit de l'association donc, de football de Lège-Cap-Ferret qui évolue d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, mais en National 1 désormais, puisque ça a encore changé. Tous les jours de 12h, à partir de 12h, c'est la restauration. À 16h, c'est la fête foraine. Le soir, il y a restauration, banda, DJ. Le samedi, il y aura même un concours de château de sable. Et puis le dimanche, il y aura une messe devant la chapelle de l'herbe à 18h30 pour ceux qui sont consommateurs. Alors voilà pour ce qui concerne les news. Et maintenant, on va remercier Michel et ouvrir la météo.
Michel, ma belle.
Voilà pour les bons plans du jour. On a bien mérité notre pause canon chez Michel Cap-Ferret. Suivez tous sur Instagram @MichelCap-Ferret.
La météo vous est présentée par Glisse en Herbe. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Envoyez-vous en l'air en parachute ascensionnel et contemplez le plus beau paysage du monde à côté des oiseaux. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Tracez des courbes sur l'eau en foil à côté des poissons.
Alors, cette météo du 19 août, que se passe-t-il ? Cette météo est favorable à celui qui rédige ce torchon, car il est possible que pour une fois, il ne sue pas comme un bœuf au-dessus du cahier. Effectivement, je ne vois aucune goutte sur la feuille. En ce qui me concerne, ça va aussi, puisque le temps est agréable. La température prévue est de 24 degrés et nous atterrirons à... Non, pardon. Mais le ressenti atteindra quand même encore 31, ce qui fait le même effet que l'allocation de rentrée. Tu palpes 400 balles et tu vas t'en servir pour acheter un téléphone à 1000 balles. Le gamin, il se démerdera avec ses crayons de couleur offerts contre un pack de 12 yaourts aux fraises de chez Lidl et des cahiers de brouillon à 1,50 les 10 en papier huc recyclé des Vespasiennes municipales. Et pour les livres de classe, bah, il aura qu'à raqueter Charles-Henri puisque ses parents ont de la thune. La température de l'eau, elle est toujours à Calais à 23 et là c'est bien cool parce que quand celle de l'air est quasi identique, alors l'impression de tiédeur est juste magnifique et ça ressemble à la scène du gant de vison dans James Bond. Le vent est orienté nord-ouest, mais ta sœur, on sait pas, vu qu'elle sort aussi bien avec des filles qu'avec des garçons. Sa vitesse est de 9 à 15 nœuds, mais ton frère, on sait pas, vu qu'il se dessape jamais sous la douche. La marée, elle, se rabasse à 16h24 et c'est niqué pour Julien s'il veut faire du foil en partant de la plage. Le coefficient est de 49 et c'est aussi niqué pour Marc Simoncini qui n'investit que pour faire x100. Les vagues, elles, font 40 cm et si elles baissent encore un peu, je vais bientôt pouvoir vous parler de la taille de ma mythe car je n'avais jamais vu un insecte pareil dans ma penderie. Aujourd'hui, nous fêtons les Jean-Eudes. Alors, des gens, on en connaît encore quelques-uns, mais les Eudes, il faut aller dans le petit Nicolas pour en retrouver un. Vous savez, c'était le petit bagarreur qui défie tout le monde dans les yeux et saisit le moindre prétexte pour coller des baffes à Geoffroy et ses lunettes, le fils de banquier qui se vante tout le temps. Sinon, c'est le 19 août 1883 que naquit Gabriel Chanel, que tout le monde connaît sous le nom de Coco Chanel, et qui participe encore et toujours au prestige de la France et à blinder Alain et Gérard Wertheimer, les deux frangins qui possèdent la marque. Allez, à demain les gens.
C'était la météo, offerte par Glissant Herbe, village de l'herbe, depuis les airs en parachute ascensionnel ou bien en foilant sur les flots pour un été plaisir au paradis. www.glissantherbe.fr.
Voilà une émission dont
Bain de soleil et l'hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Je vous en prie, j'adore qu'on me coupe. Alors donc le principe est le suivant, c'est qu'on va clôturer justement cette belle émission et nous sommes très fiers de l'avoir organisée parce que c'est quand même pas évident, je le répète, d'avoir Marc Simoncini et Julien Courbet en même temps, le même jour, au même endroit.
Bon, Gernot, il joue à domicile, c'est plus facile.
Pour Gernot, il vient surveiller si on ne dit pas trop de bêtises et la dernière chronique vient de le conforter dans ses soupçons. Mais au-delà de cela, donc je disais que c'était vraiment sympa de la part de nos invités et pour nous, c'est quand même incroyable d'avoir une telle présence sur le plateau. Puisque c'était important évidemment de parler des tenants et aboutissants de cette gigantesque mouvement de solidarité autour des incendies, SOS Incendie. Donc c'est un concert, mais pas que. Et on insiste sur les t-shirts qui seront disponibles sur Carrefour France dès aujourd'hui. Et il faut absolument se les procurer. Ils coûtent que 25 euros. C'est pas grand chose pour avoir un souvenir pour toujours et surtout pour aider le maximum de sinistrés possible.
Et les dons sur fondationdefrance.org.
Exactement.
C'est possible.
Merci beaucoup. Donc on va se quitter en annonçant que demain nous serons avec Véronique Bogdanov qu'on ira retrouver devant la maison de la presse de Cap Ferret parce qu'elle signe. Et figurez-vous qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Igor et Grishka. Elle se livre enfin au sujet de ses frères, les fameux frères Bogdanov. Et on viendra essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce livre avec elle devant la presse demain à partir de 11h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez sur verygood.fr. Venez dîner à l'Hôtel des Pins. Et pour le reste, la vie est belle.
Bain de soleil, c'est fait pour aujourd'hui. Mais l'Hôtel des Pins vous attend tous les soirs pour un dîner sous la verrière centenaire à l'ombre des rosiers du bel Albicia.